parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 22h minuit, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis, bienvenue sur Beurre FM. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée parmi nous à l'écoute de Confidence sur Beurre FM avec Giovanni qui vous répond au standard et qui réalise cette émission. Bonsoir Giovanni.
Bonsoir Vanessa, bonsoir tout le monde.
Tout va bien, on est prêt, n'est-ce pas?
Ah ben là, on est même plus que prêt.
Oui, on a du beau matériel, du beau matos.
Oh oui.
Tout est neuf, tout est bien, voilà. Donc tout va bien, on a de très jolis écrans, voilà. Un standard flambant neuf, un standard... dernière génération. Voilà, chercher le mot.
Ah bah là, on est en train de petit à petit avancer vers la radio de l'an 3000.
L'an 3000, voilà, exactement. On y arrive. 01 53 48 3000, j'espère que vous allez bien en tout cas. Allez, avant de vous annoncer le thème de ce soir, vous pouvez appeler hein, pour vider votre cœur, hein, c'est confidence en même temps, hein, demander quelques conseils, vous aider un petit peu à trouver la route, hein, parce que parfois on la quitte. Voilà, on est là pour ça, on est là pour vous apporter du soutien, de la solidarité, de l'amour, beaucoup d'amour. 01 53 48 3000. Mais avant, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Voilà. Allez, on y va, on appelle. 01 53 48 3000. Ce soir, on va parler d'un sujet pas très joyeux, hein, il est pas gai du tout mon sujet. Hein. Enfin, je vous l'impose pas, bien entendu, je vous l'ai dit. Hein, vous pouvez vraiment parler de tout ce que vous voulez, vous ne serez jamais hors sujet. C'est un sujet que je propose parce que c'est un sujet qui fait partie de la vie, hein, en même temps, hein, de la vie de tout le monde, vraiment. Personne, en tout cas, n'échappe à ce malheureusement à ces situations que je vais évoquer. On va parler de ces morts qui sont un petit peu particulières, de ces deuils qui sont des deuils impossible, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, donc la mort, c'est quelque chose de quand un être très cher nous quitte, eh bien c'est toujours très 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 douloureux, très difficile. Parler de mort violente, parce que c'est ce que je voulais parler de mort assez particulière, de mort violente, mais quelque part, eh bien ça sous-entendrait qu'il existerait des morts douces, et non, et que tous les morts ne se valent pas, et non. Donc c'est très difficile à entendre, hein. Mais il y a des personnes qui sont endeuillées, qui doivent apprendre à vivre avec ce deuil impossible. Eh bien ces personnes qui nous quittent suite à un départ tragique, hein. Donc comment faire face, justement, c'est comme ça que je l'ai intitulé ce soir le thème, à un deuil traumatique. Lorsqu'on accompagne un proche atteint d'une grave maladie, le caractère prévisible de sa mort nous prépare à vivre un deuil. Cela ne veut pas dire que le choc du décès est moins éprouvant et bouleversant, mais il est en quelque sorte amorti. L'intensité de la douleur dépend grandement des circonstances de la mort. Lorsqu'il y a mort naturelle, les maladies, etc., le deuil ou de vieillesse, le deuil se fait également de manière naturelle, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit d'une maladie, il arrive souvent que les familles et les proches de la personne mourante, ces personnes, elles ont le temps de se regrouper autour de la personne qui part, hein, qui va partir, donc pour lui dire adieu, voilà. Mais la mort violente, celle-ci est plutôt foudroyante. La perte d'un être cher suite à un homicide, par exemple, un suicide, un accident, un attentat, ça ne permet pas de s'y préparer. Donc le décès d'un proche est toujours, bien entendu, une épreuve. Mais quand il survient de façon brutale, comme je viens de vous le présenter, eh bien le choc de l'annonce peut provoquer un traumatisme psychique. Les circonstances de la mort du proche sont vécues comme brutales, inattendues, sidérantes. Voilà, et des personnes mettent, on va dire, très longtemps, hein, certaines des semaines, d'autres des années, voire, oui, des mois, des années, hein, à se remettre et vraiment à retomber un petit peu sur leurs pieds. Voilà, donc c'est de ces morts-là, ces départs foudroyants dont j'ai envie de parler ce soir, et j'ai envie de recevoir vos témoignages, donc venez apporter vos témoignages qui aideront d'autres qui se trouvent dans cette situation. Donc si vous avez perdu un être cher, hélas, d'une manière violente, hein, un accident, une noyade, un accident de voiture, renversé, voilà, par, par la, un accident de la route, hein, renversé par une voiture ou autre, un suicide, un attentat, comme on en a connu, hélas, ces dernières années. Eh bien, venez nous en parler, parce que ces morts-là, accidentelles ou autres, eh bien, c'est vraiment parce qu'on on s'attend pas. Donc, la personne n'est pas malade, on va pas lui rendre visite à l'hôpital, plus ou moins, on s'attend au départ, bon, même si c'est dur, c'est difficile, bien sûr, mais on s'attend, hein, quelque part, bien sûr. Alors que là, c'est foudroyant, un coup de fil, donc qui vient de, je ne sais pas, des pompiers, de la police, de la gendarmerie, et qui vous dit, bah, écoutez, voilà ce qui s'est passé, un tel ou une telle, voilà. C'est très, 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 très compliqué, vraiment très compliqué. Donc, j'attends vraiment, vraiment vos témoignages. Si vous avez connu, malheureusement, une telle situation, eh bien, venez apporter ces témoignages à l'antenne et nous dire comment vous avez passé ces moments douloureux, comment vous avez pu surmonter, hein. Voilà, parce que la vie continue, et là, c'est comme ça. Ou ou alors c'est un ami, voilà, enfin des amis autour de vous, et vous avez dû soutenir ces familles, etc., frappées par ces traumatismes, voilà, ces deuils traumatiques, comme on les appelle. Alors, je vous attends au 01 53 48 3000. Allez, on se réveille, c'est pas parce qu'on a un nouveau standard. C'est le nouveau standard qui leur fait peur.
Justement, faut l'inaugurer.
Bah oui, alors, allez, venez, je vous attends, vraiment. La mort fait partie de la vie, comme je le dis souvent. Donc, faut pas que ça vous traumatise non plus. Ça fait partie de la vie. On a tous été confrontés à ce genre de situation. Donc, la mort, la vie, eh bien, ça fait partie. Voilà, c'est la même histoire, hein. Et eh bien, donc, venez nous parler de ces deuils qui sont particuliers, qui sont des deuils traumatiques, comme je vous les ai présentés. Accident, suicide. Oui, accident, suicide, attentat, hein, ces morts qui sont violentes et foudroyantes, qui nous sidèrent parce qu'elles sont inattendues, hein, voilà. 01 53 48 3000. Eh bien, on a Farid qui nous appelle du 92. Bonsoir Farid.
Oui, allô, bonjour, bonsoir Vanessa.
Oui, bonsoir Farid, bienvenue à toi.
Farid du 92, je suis vraiment heureux, j'ai le cœur qui bat, je me sens pas très bien parce que je pensais que je pouvais pas passer à l'antenne.
Mais si, tu vois.
Et je suis heureux, vraiment, tu peux pas savoir à quel point, ça fait un an que j'essaye de passer à l'antenne, Vanessa. Et en plus, vous avez un nouveau standard, donc c'est génial. J'ai été très heureux d'apprendre que vous avez un nouveau standard.
C'est toi qui l'inaugure.
Oui, ah, merci Vanessa, c'est gentil. C'est gentil Vanessa. Oui, alors Vanessa, donc c'est Farid du 92.
Oui.
Alors, je voudrais passer un message. On peut parler de ce qu'on veut, Vanessa?
Oui, moi je parlais de mon sujet, mais si tu veux parler d'autre chose, il n'y a pas de souci.
Oui, parce que c'est douloureux pour moi, parce que j'ai perdu ma mère et ça m'a mis le cas au tennis, tu vois ça.
Ouais, je comprends, je suis désolée Farid.
Je voudrais passer un message s'il te plaît Vanessa, oui. Je sais que c'est trop tard pour passer présenter ses vœux pour le nouvel an.
Non, c'est jamais trop tard.
Le nouvel an classique.
T'inquiète pas.
Bien sûr. C'est l'intention qui compte, comme je l'ai dit une fois Vanessa.
Mais oui,
tu sais, c'est l'intention qui compte, c'est le lien qui compte, c'est le cœur qui compte Vanessa.
Mais oui Farid.
Oui. Alors, Azul Falaoun, Azul Alikoum, Salam Alikoum, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Beur FM dans le monde entier, sans exception. Sans aucune exception, sans exception. Vous êtes tous les bienvenus sur Beur FM, quel que soit le sujet abordé ou le thème abordé, vous pouvez dire ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes respectueux des autres.
Alors, voilà. Donc, parle-nous,
oui. Je voulais présenter mes vœux pour 2022 à tout le monde, ainsi qu'un excellent Enaïel, nouvel an à Mazir, qu'on peut souhaiter jusqu'au 12 février, puisque ça part du 12 janvier, à tout le monde, ainsi qu'un excellent Enaïel, donc, nouvel an à Mazir, berbère, de l'an 2972. Mm-hmm. Donc, on dit en berbère, en Amazir, en kabyle, Asgwas Enaïel Amgaz, à tout le monde en général, mais bien évidemment, évidemment, surtout à tous les terriens berbères dans le monde entier, et en particulier les Kabyles algériens, les Kabyles, donc les Chaouis algériens, les berbères frères tunisiens de l'île de Djerba, par exemple, oui. Les berbères espagnols des îles Canaries, entre autres, notamment.
Mmh. Oui, tous, attends, parce que Farid, quand il part, il ne s'arrête pas. Farid, on a compris, voilà, tout le monde, voilà, pour tous les terriens.
Si
vas-y, parle-nous.
J'ai pas
terminé. Oui, mais non, mais tu le fais tout le temps, parce
ça
que tu fais...
À cœur,
oui, mais tu, je sais, ça tient à cœur.
Pour longtemps,
mais tu fais la liste de tous les pays. Il y en a beaucoup.
il y en avait deux derniers qui
alors vas-y,
parce que j'ai des amis frères maliens et nigériens, j'aurais voulu leur souhaiter aussi, ils écoutent Beurre FM, et j'aurais voulu leur souhaiter tous en même temps un bon nouvel an à Nazir, à eux aussi, aux Égyptiens de l'Oasis de Siwa, et entre autres mes frères musulmans berbères maliens et nigériens.
Tu vas pas avoir le temps de tout dire, Farid.
Oui. Si,
non mais tu le fais tout le temps, c'est pour ça que t'as pas le temps. Alors vas-y, on a compris.
Je vais juste parler de Yenayel, d'accord ?
Oui.
Alors je tenais aussi à remercier beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, très sincèrement et du fond du cœur, les organisateurs et organisatrices du Yenayel, Nouvel An Berbère, qui s'était déroulé à Paris jusqu'à la place Sliman Azem, à la Mahmoud, paix à son âme qui repose en paix. Moi j'y étais malgré le froid et les fortes pluies et intempéries, c'est la force des Imaziren, des Berbères, qui
Farid, s'il te plaît. Farid,
car nous, les Imaziren et Berbères, surtout les Algériens Kabyles, on ne lâche rien.
Farid.
Je voudrais dire, Vanessa, on n'était pas si nombreux que ça, car il y avait des cas de Covid-19, comme l'avait dit Monsieur Nasser Kétan, pas si nombreux que ça, car il y avait des cas de Covid-19, mais dans...
Comment tu as perdu ta maman? Parce que c'est le sujet.
Je t'expliquerai, Vanessa.
Oui, mais on va être coupé parce qu'on a une pause.
Écoutez, je sais qu'elle sait bien, elle sait que j'aime parler de ça.
Qui ça?
S'il te plaît, ça lui fera plaisir.
Vas-y, comment tu as perdu ta maman, Farid, s'il te plaît?
Oui.
Comment elle est partie, ta maman? C'était subi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était malade?
En fait, ma mère est décédée. Elle est décédée. Est-ce que je pourrais continuer la prochaine fois, la fin de ma...
La prochaine... Oui, mais on en aura jusqu'à la fin.
Pour ma maman.
Pour ta maman, je préfère. Voilà, j'aimerais bien que tu parles de ta maman. Vas-y.
J'en ai parlé une fois dans l'émission, l'ex-émission de Kim Megaray Party.
Alors, vas-y, parle là. Vas-y.
En fait, ma mère allait très bien. Elle ne fumait pas, bien sûr, elle ne buvait pas, elle avait une hygiène de vie, elle mangeait bien et pas n'importe quoi. Mais malheureusement, elle est décédée d'un cancer, comme la plupart de personnes de cette fichue maladie, de cette saleté, satanée maladie qu'est le cancer. Et moi, je fais des dons chaque année pour le cancer. Je donne 30 euros par mois à la Ligue contre le cancer. On me prélève sur mon compte. Et aussi à médecins, comment on appelle ça, médecins du monde, ou la recherche médicale, parce que la recherche médicale, en fait, s'occupe de toutes les maladies, pas que du cancer. Mais moi, j'ai une haine farouche contre le cancer et le diabète, et surtout le cancer. Ça se guérit assez bien maintenant, mais c'est pas encore ça. Il y a des cancers qui se guérissent bien, comme le cancer du sein pour les femmes, et les cancers du cancer colorectal aussi, et s'il est pris à temps, 9 cas sur 10 sont résolus. Et mon père, Dieu merci, Sahara Bessara, je peux pas perdre mon père, j'ai perdu ma maman déjà, ça me suffit. Et j'étais très attaché à elle, parce que tu sais que le papa, Vanessa, tu m'entends, Vanessa?
Oui, bien sûr.
Le papa, c'est le papa, mais la maman, elle nous a porté, elle nous a éduqué,
oui.
Surtout chez nous, les
non, tout le monde, tout le monde. Non,
c'est tout le monde, c'est tous les terriens.
Voilà.
Moi, je dis ça parce que je suis musulman.
Oui, mais non, on peut, oui, mais bon.
Je suis algérien, mais
Farid, écoute-moi.
Disons, les méditerranéens.
Farid, arrête de séparer les gens en disant nous, les musulmans, nous, les kabyles, nous, ceci, cela. Une maman, c'est une maman pour tous les terriens.
Son père, oui.
Même chez les animaux, une maman, c'est important. Donc on va.
Bien sûr.
Pour tout le monde, Farid.
On a parlé des animaux en 1994-95.
Farid, toutes les mamans sont précieuses pour leurs enfants.
C'est la matrice.
Voilà.
Qui nous a porté.
Il faut pas qu'on divise. Tu sais, en disant.
J'adore mon papa, Vanessa.
Chez nous,
chez les autres. J'étais très très attaché à elle. Ça m'a mis chaos technique.
Ouais.
Vraiment,
paix à son âme.
J'ai développé des troubles psychologiques.
Farid, on a la pause.
Et un souffle-cœur à cause de ça.
M'écoute pas, Farid.
Oui, je t'écoute.
On a la pause, Farid. On a la pause là tout de suite.
Oui.
Voilà. Donc une petite pause et on revient juste après. À tout de suite. Allez, je vous attends au 01 53 48 3000. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beurre FM, 22h minuit. Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit, pardon, au 01 53 48 3000, un sujet bien sûr triste, c'est sûr, mais qui fait partie de la vie et on aimerait bien ensemble l'aborder pour apporter pour vos témoignages déjà. et qui pourront aussi, disons, aider les autres à faire le chemin du deuil. Ben oui, parce que souvent, les personnes s'enferment un petit peu dans leur bulle et pensent qu'ils sont seuls à vivre ce genre de situation, et non, ils se sentiront moins seuls. Vous pouvez bien sûr parler d'autres choses. Alors, cette semaine, on a parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vous pouvez aborder les sujets que vous n'avez pas eu le temps de, justement, d'appeler, enfin, vous n'avez pas eu l'occasion, surtout, d'appeler à l'antenne, hein, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, c'est vrai que la mort est un sujet qui intrigue, n'est-ce pas? Qui intrigue, qui fait peur en même temps, et qui intrigue. Là, bon, en l'occurrence, c'est assez particulier, parce que c'est vraiment la mort traumatique, etc., accident, etc. Mais la mort par elle-même, en réalité, eh bien, elle fait peur à qui? À nous, les vivants, hein, puisque bon, on la souhaite vraiment pas pour personne. Hein, on se la souhaite pas ni pour soi ni pour qui que ce soit, et qu'elle arrive le plus loin possible dans le temps. Voilà. Moi, je vous souhaite vraiment de voir vos arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants même. Mais il faut se réconcilier un petit peu avec ce qu'on appelle la mort, qui n'en est pas une. Enfin, moi, pour moi, c'est un nom vide de sens. Hein. Voilà, c'est le passage, on va dire. Hein. Bonsoir Rachid. Rachid de Paris.
Oui, Vanessa, ça va, tu vas bien?
Très bien, et toi Rachid, tu vas bien?
Ouais, c'était un petit coucou, tu vois.
C'est gentil, ça me fait plaisir.
Ouais, comme je travaille la nuit, comme d'habitude, avec les vélos.
Les vélos, les toujours. Formidable.
Ouais, parce que, apparemment, comme d'hab, les vélos et ça. Bah, ouais. Il est pas là, Samir?
Non, on n'est pas jeudi, on est mercredi.
Ah, désolé, parce que je suis en décalage, c'est comme quand je bosse la nuit, là, t'es ouais. Mon cerveau, tu vois, mon esprit,
mais,
là, il y a
tellement... Ouais, et c'est vrai que tu es à l'extérieur, toi, la nuit, hein, puisque toi, tu travailles avec, dans cette société qui ramasse les Vélib, qui les emmène pour les remettre en état et les nettoyer, tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est plus agréable dans ton métier de travailler de nuit, parce qu'il y a déjà, il y a moins de circulation, il y a, hein?
Tout à fait.
Ah oui, parce que la journée.
C'est plus fluide.
Voilà.
Il y a moins de personnes.
Oui.
La température de la nuit, bon, les gens, ils sont toujours un peu, tu sais, entre le jour et la nuit, au niveau de température, caractère, en fait, ouais. C'est pareil.
Et comment après, ils comment, moins... et puis ils roulent moins fous.
À Paris, même quand il est, même quand il est vert, il faut quand même contrôler à gauche et à droite, hein. Tu peux tomber sur un imbécile qui est alcoolisé, ah, ouais. Voilà, tu vois.
Ah, ben, tu sais, tout à l'heure, ce qui m'est arrivé, j'étais sur l'autoroute et la 4, et il y avait un espèce de fou, mais c'est pas possible, hein, incroyable, j'aurais bien aimé filmer, mais bon, moi j'avais les mains bien sûr bien accrochées au volant, et je suis restée de loin à distance, et devant, alors je sais pas ce qui s'est passé, il y avait une voiture, deux voitures blanches, alors une voiture et une camionnette avec, il y avait le nom d'une location de voiture et tout ça, enfin la camionnette, et donc je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Et le gars de la camionnette, on a l'impression qu'il voulait tuer, carrément. Hein.
Ah, il voulait en découdre.
Ah non, mais complètement. Parce que tu sais, il se mettait, il pourchassait l'autre. Alors l'autre, genre, il avançait et puis, genre, laisse-moi tranquille, quoi. Et donc, il se mettait sur la droite, genre, ça y est, c'est fini maintenant, on va rester tranquille. Mais non, il voulait vraiment en découdre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il accélérait, il se mettait devant lui, et puis il freinait, il s'arrêtait. Sur l'autoroute.
La provocation, ouais, carrément,
oui,
carrément.
Pour que l'autre lui rentre dedans, et l'autre, alors donc, il freine. C'est des coups de frein, c'était bizarre. Alors donc, c'était de la folie ce que j'ai vu aujourd'hui. Ensuite, l'autre, il revient sur la gauche. Celui qui voulait vraiment être tranquille revenait sur la gauche. Et la camionnette, elle repartait de plus belle sur la gauche. Elle lui barrait la route, elle se mettait devant, elle se mettait de l'autre côté, elle lui... Mais c'était de la folie. Alors, celui qui avait la petite voiture blanche, une autre voiture... Donc, ce qu'il a fait, il a failli, mais vraiment, je crois qu'il a failli mourir, mais emporter avec lui d'autres, puisque à un moment donné, il y avait un espèce d'embranchement, il est parti, mais complètement sur la droite. Tu sais, comme tu pars pour sortir de l'autoroute. Complètement, il a coupé la route à des voitures qui étaient déjà... Ah oui. Qui, voilà. Et bien, il leur a coupé la route, c'était de la folie parce qu'il était affolé. Alors, donc, faites attention, n'entrez pas dans la folie des gens sur la route et tout, parce que mon cœur...
Il y a 20 ans, tu te rappelles, il y a 20 ans, les gens ils étaient courtois au volant. Même quand tu avais ton permis, on disait, ouais, Vanessa, franchement, t'as assuré, t'as le permis, hasso, beau gosse, tout ça.
Ouais. Là,
on a tout perdu, la courtoisie. Même le clignotant.
Ah,
pour mettre un clignotant, juste un clignotant, ils ont du mal à mettre un clignotant, les Parisiens.
Oui, ils mettent pas de clignotant. Non, il n'y a pas. Faut que tu devines, toi, moi. Il faut anticiper tout le temps. Moi, tu sais, j'ai les yeux partout. Et j'ai tout le temps peur que quelqu'un des boîtes comme ça. Mais ça arrive très souvent, tu as raison, hein. Il n'y a pas de clignotant, il n'y a pas de respect.
Tu sais, on a perdu l'esprit collectif, tu sais, au niveau de la route, au niveau
routier. Ah oui, mais je ne sais pas comment ils ont eu le code. Je ne sais pas.
À mon avis, dans les dernières surprises.
Ou alors, bon, ils ont fait attention au moment de passer leur code, et puis après, bon, on se lâche, quoi. Mais je te dis, cette scène aujourd'hui, j'ai failli assister, mais vraiment, à un carnage. Je priais dans mon fort intérieur en disant mon Dieu, non, évite ça, quoi.
Tu vois, sincèrement, Vanessa, comme je suis marocain, mais avant tout, je suis universel. Hein,
mais t'es rien, t'es comme moi, t'es un terrien. En fait,
au Maroc, on m'a toujours dit, au Maroc, mes amis à moi, comme je suis de Marrakech City, Marrakech, ma ville de cœur, bon bref. Oui. Et en fait, là-bas, ils m'ont toujours dit, oui, vous, les Parisiens, vous, les Français, vous savez pas conduire. Et moi, je leur disais, mais c'est vous savez pas conduire.
C'est partout.
Et moi, les gars, pour avoir mon permis, j'ai investi mon permis, j'ai mis 1200 euros et j'ai mis 6 mois à l'avoir.
Alors, tu vois,
passe un petit billet en mois d'une semaine, tout là, tu vois.
Non, on va pas généraliser quand même.
Voilà, après, avec le temps, je me suis aperçu que mon ami, en fait, quand on était petit, il avait raison. C'est nous, en fait, on est sauvages. Et pourtant, on a du matos. On a des feux rouges, des bonnes routes, plein de trucs avantageux.
Ici, les gens sont. À Paris, hein, je dis bien, à Paris, hein, parce que quand tu pars en province, c'est pas la même chose. Mais à Paris, les gens, c'est les fous du volant. Tu sais, avant, il y avait un dessin animé qui s'appelait Les fous du volant. Eh bien, c'est les fous du volant. Aujourd'hui, il faut vraiment faire attention, pas répondre aux provocations, voilà. Enfin,
là-dessus, voilà. Ça t'as raison. Faut jamais
moi, des fois, t'en as qui me collent derrière parce qu'il me pousse à faire, tu vois, de la vitesse, alors que non, la vitesse, elle est limitée. Alors, donc, qu'est-ce que je fais gentiment? Je mets mon clignotant, je me mets sur la droite et je les laisse passer gentiment. Je m'en fiche, j'ai le temps.
Ça, oh là là. Tu te rappelles, il y a quelques mois où je t'ai parlé en Espagne, il y avait le S de senior. Tu te rappelles? C'est moi qui t'en ai parlé. Tu te rappelles ou pas?
C'était quoi déjà?
En Espagne, tu sais, pour les vieux, là, les vétérans, pour les vieux.
Oui.
Seniors.
Ah oui, tu m'avais parlé de ça.
Tu te rappelles? Oui, oui. Tu vois?
Ouais.
Non, à Paris, je pense qu'ici, ils mettent des gens qui font de la régulation, qui
Ah non, mais ils sont jeunes, hein. Ils sont jeunes, ceux qui font ça, ils sont jeunes, hein. Moi, je te dis, honnêtement, je sais pas, j'ai toujours dit, hein, mes proches, quand je suis en voiture et tout, je dis, les gens, se comportent comme ils vivent dans la vie. Voilà. Si t'as du civisme en toi, si tu as du respect pour les autres, etc., et pour ta vie aussi, hein, eh bien, dans ta vie, à toi. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est en toi, et comme tu te comportes tous les jours, eh bien, au volant, c'est la même chose. Moi, je reconnais. En fait, voilà, je reconnais les gens.
Ça reflète l'image.
Voilà, exactement. Dans leur comportement quand ils conduisent.
Bon, Vanessa, je vais laisser le micro aux auditeurs.
Ok, Rachid.
Aux gens qui sont enfermés, les pauvres, aux animaux, comme d'hab, la routine.
Oui.
Dédicace à Marrakech, à Alger, à Naba, au Mali, Bamako. Et un grand merci à Giovanni. Franchement, Giovanni, beau gosse.
C'est gentil.
Un coucou à Méziane, un coucou à Samir. Franchement, un gars qui nous a apporté pour 2020, encore une fois, des infos incroyables, la galaxie.
Oui, il sera là demain, il nous appellera. Oui.
Prends soin de toi.
Merci.
Ta maman, ta famille.
T'es un amour.
Et Inch'Allah, on s'appelle.
Avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je t'embrasse très fort et bon courage, Rachid.
Merci.
À bientôt. Au revoir, Rachid. J'adore ce garçon. Mais j'adore, moi, tous nos jeunes et tout, comme ils sont adorables. Regardez, ils travaillent et tout. Et quand vous entendez tous ces en ce moment avec la campagne là qui nous bassine avec les jeunes musulmans maghrébins etc bon rien machin faut faire ceci, regardez comme ils sont courageux, ils sont courtois, ils sont polis, regardez comment ils me parlent, ils sont polis, prends soin de toi, ta maman, c'est des jeunes, moi ça me fait plaisir, j'ai la larme à l'œil quand on me parle comme ça, ils sont adorables, c'est pour ça que moi les personnes qui sont derrière les barreaux, jamais je les ai oubliés. Depuis qu'elle existe, cette émission, depuis 15 ou 16 ans qu'elle existe, jamais un soir je les ai oubliés. Et je les oublierai jamais. C'est pas parce qu'ils sont derrière les barreaux que ça fait d'eux tout de suite des mauvaises personnes ou des pestiférés. C'est pas vrai. Parce qu'il y a de tout. Bien sûr, on parle pas de ceux qui font vraiment du mal, qui ont du sang sur les mains, et comme l'assassin de Maïlis, machin, etc. Ceux-là, j'en parle même pas. C'est des monstres. Mais bon nombre qui sont derrière les barreaux et de toutes les origines, hein, parce qu'on veut chaque fois on veut mettre tout le temps dire que c'est beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'Africains ou je sais pas quoi. Oui, parce que les gens malheureusement, il y en a beaucoup qui sont pour pas grand chose non plus. Hein, faut pas croire que c'est voilà, ils payent leur peine. On dit pas que on va pas pleurer sur leur sort. Hein, ils payent leur peine, ils le savent hein, d'ailleurs. Hein, voilà, mais la plupart c'est des petites peines, c'est voilà des bêtises qu'ils ont fait. Et ils se rattraperont, Inch'Allah, hein. On est là pour leur dire, non, vous allez vous rattraper, les garçons, hein. Et puis, il faut pas croire que, quand ils vous disent, la plupart, c'est maghrébin, machin, etc. Bah oui, quand on concentre les gens, ils se montent la tête les uns les autres. Par exemple, s'ils ont fait des mauvais petits coups, là, ils s'y sont tous agglutinés au même endroit, s'ils sont 5-6, machin, bah on va mettre les 5-6. Le nombre, c'est ça, quoi, enfin, voilà. C'est pas les origines, c'est l'endroit, les fréquentations, les mauvaises influences, voilà. Alors donc, quand on entend des Rachid, des Hakim qui est jeune aussi, qui a une trentaine d'années, qui a monté son petit restaurant, qui se donne à fond, qui travaille jour et nuit, mskin et tout, pour joindre les deux bouts, qui nous appelle régulièrement, et d'autres jeunes encore, et qui sont polis, qui sont bien éduqués, et qui, franchement, alors ceux-là, vraiment, c'est des leçons de vie qu'ils donnent à tous ceux qui crachent sur les autres. Parce que, suivez mon regard, celui qui souvent en ce moment, qui parle, c'est la campagne, et qui insulte, qui vocifère, qui hurle, qui parle pas, il hurle. Voilà, il aboie. Alors donc, et avec des mots très déplacés, d'une vulgarité, d'une méchanceté, d'une haine, qui prennent de la graine. Regardez, Rachid, comment il parle, prends soin de toi, ta maman polie, propre. Voilà, il travaille de nuit, il travaille honnêtement et sincèrement, et lui, et d'autres, tous les soirs, vous les entendez. Voilà. C'est ces jeunes qu'il faut absolument, absolument, vraiment mettre en avant. Et moi, je suis très fière de vous, les jeunes. Ne vous laissez pas embobiner et ne vous découragez pas. Nous, on vous aime. Hein. Moi, j'étais très fière. Tout à l'heure, j'ai vu sur alors pour pas la nommer TPMP, enfin l'émission. J'ai pas envie de leur faire la pub, hein, mais bon. Cela dit, voilà, un jeune homme, parce que j'ai vu comment il s'appelle, Ali Merabet, le maire de Trappes. Ben, je lui dis, alors s'il est à l'écoute ou quelqu'un le connaît. Alors Ali, bravo. Voilà, j'ai qu'une chose à dire, Ali Yatek Saha, magnifique, bravo. Oui, Giovanni, tu me disais, parce que tu me fais des signes, hein? Oui. Je comprends pas, Giovanni, envoie-moi des messages. Oui, alors je disais, parce qu'il me parle en même temps, alors donc je sais pas, il y a pas de souci de technique.
On prend un auditeur?
Oui, ben je vais le prendre juste après. Il est plus là, il nous a quitté. Rachid. Ah oui, il nous a quitté Rachid. On va prendre Hakim, là tout de suite, Hakim. Alors Hakim, il va être à l'antenne, mais moi je vous mets à... Voilà, Hakim, je parlais de lui. Il aura une longue...
Ah,
t'as vu ? Ah, là, tu auras une longue vie, Inch'Allah.
Ah,
tu auras des arrière-arrière petits-enfants. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Tu sais, tout à l'heure...
Ouais.
Juste, je termine. Ali Merabet, Yate Saha, je voulais lui dire, si quelqu'un écoute, le maire de Trappes, je voudrais le mettre vraiment à l'honneur. Et tout à l'heure, franchement, moi, il a parlé d'une manière, il a dit des choses qui étaient vraies, ça déplaît. Bien sûr, quand on dit des vérités, c'est bizarre, hein, parce que sur toutes ces chaînes, eh bien, quand certains, ces extrêmes-là, qui disent n'importe quoi, qui insultent les autres, qui nous traînent dans la boue, eh bien, tout le monde trouve normal, hein, on dit... Oui, mais enfin, bon, il a pas tout à fait tort, ce qu'il dit, voilà, on les met à l'honneur. Alors que Ali Merabet, qui est respectueux, propre sur lui, qui dit des choses, et puis en plus, il dit, moi, je suis marié avec une Bretonne, j'ai des enfants, ils sont mixtes, etc. Donc, il est loin d'être dans un extrémisme dans lequel la case dans lequel on veut le mettre. Donc, et en plus, il a hyper bien parlé, il a dit des choses et des vérités que je répéterai pas, mais c'est ses propos à lui, des vérités qu'il a mises en avant. Il a répondu face à Jordan Bardella. Voilà, puisque ils ont déposé plainte parce qu'il a dit que Trappes, une ville islamiste ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est vraiment, voyez où on en est aujourd'hui. Mais en tout cas, je voulais rendre hommage à Ali Merabet, qui est un maghrébin d'origine marocaine. Je lui dis, Ali, atik saha, bretna qalbna, tout à l'heure. Vraiment, tu as dit des vérités. Voilà, que ça déplaise, tant pis. Hakim, quel plaisir de t'entendre ce soir.
Ah, ça fait plaisir, Vanessa. Merci beaucoup. Hein. T'as parlé de moi, c'est gentil. La vérité.
Oui, mais c'est vrai, je le pense.
Ouais,
parce que tu travailles. Vous êtes des jeunes. Tu es comme Rachid. Vous travaillez. Ouais. Vous êtes honnête. Vous gagnez votre argent à la sueur de votre front et vous apportez beaucoup à la France, beaucoup à ce pays, hein, parce que vous payez vos impôts. Toi, tu as osé monter quand même. Il y en a plein qui parlent blablabla. Toi, tu as osé quand même faire monter un petit resto à ta mesure, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bien sûr.
Voilà, à ta mesure.
Comme on peut,
voilà, ouais. Et je suis sûr que c'est très difficile. Tu as une trentaine d'années, donc tu t'endettes, etc.
37
ans. Bah oui, c'est jeune. Tu t'endettes, etc. Je veux dire, tu payes tes charges, tu payes les impôts, tu contribues à faire tenir debout ce pays. Et les autres sont en train de vous enfoncer en disant, comme quoi, vous ne servez à rien, que vous êtes juste des incités, etc. Et ça, ça m'agace, vraiment.
Ouais, je comprends. Je comprends ton coup de gueule, Vanessa, honnêtement.
Ben oui, parce que ça, il y en a marre, quoi.
Tu vois, c'est comme ça, c'est la volonté. Voilà, il faut avoir des projets dans la vie. Si t'as pas de projet, t'avanceras pas, tu vois.
Mais oui. Mais il y en a beaucoup, comme vous. Il y a beaucoup de jeunes issus du Maghreb, de leurs parents, d'Afrique également, qui se donnent à fond. Moi, je connais des familles. Vraiment, je connais des familles qui ont monté leurs enfants ont monté des petits commerces, que ce soit des commerces de bouche ou autres, eh bien, qui se donnent à fond, et qui travaillent, ils sont très jeunes. Mais ceux-là, on parle pas d'eux, on les voit pas à la télé. On voit pas.
Pourquoi, tu veux savoir pourquoi, en fait, j'ai monté l'affaire Vanessa?
Oui.
En fait, c'est par rapport à mes petits frères et mes petites sœurs, tu vois. J'ai pas envie qu'ils galèrent. Ouais, j'ai pas envie qu'ils galèrent comme moi, j'ai galéré à chercher du travail à droite à gauche, faire des petits boulots à droite à gauche, tu vois.
C'est magnifique.
J'ai pas envie d'avoir on va dire, entre guillemets, la même vie que moi, tu vois.
C'est beau ce que tu dis, voilà, vraiment, c'est magnifique, Hakim. C'est très touchant. Tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est parce que tu penses aux autres générations, tes frères.
Bien sûr.
Tu vois, pour qu'ils s'en sortent. Mais ça, on vous met pas en avant. Des gens comme toi, on les voit pas. Ils sont invisibles.
Invisible, mais
on vous donne pas la parole.
Ouais, c'est vrai.
C'est le problème, non, mais c'est vrai. Moi, j'allume tous les matins la télé. Je regarde des infos, je regarde toutes les chaînes. Hein. Je regarde toutes les chaînes d'infos, soi-disant infos. Ouais, faut le dire vite. Hein. Eh bien, je regarde parce que je veux m'informer, je veux savoir un petit peu. Je zappe, et puis c'est parfois. C'est pas possible, quoi. T'as le cœur qui se retourne. Après, je suis obligée de mettre un peu de musique pour pouvoir. M'apaiser juste après 5 minutes de musique pour m'apaiser. Je me dis, c'est pas possible, mon cerveau va exploser. C'est dingue.
Oui, bien sûr.
Sur les plateaux, t'as qui? T'as pas de débat. Ça parle de débat, mais il n'y a pas de débatteur puisque ils sont tous d'accord. Alors, il y en a qui sont plus ou moins un petit peu, voilà quoi, enfin. Mais c'est juste pour faire genre. Mais sinon, la plupart, c'est ça tape et je te tape et je te tape et je te tape. Oui, mais quand même. Les Maghrébins, les musulmans, l'islam, machin, etc. L'islamisme, nous, on le combat déjà. L'islamisme le radical. Nous, déjà, on le combat. Parce que qui, parmi nous, les musulmans, est d'accord avec l'islamisme ou les terroristes? Il n'y en a pas. Faut être fou.
Non, il n'y en a pas.
On a été les premiers frappés, c'est déjà. Mais c'est pour faire l'amalgame, tu vois.
Mmh. Ouais, mais bon, si une petite parenthèse, Vanessa. Mmh. Tu vois, quand t'es jeune et tout, t'essaies de t'en sortir, t'essaies de faire des trucs, par exemple, monter ta propre boîte et tout. Il y aura toujours des trucs, tu vois, il y aura toujours des bâtons dans les roues. Il n'y a pas grand monde qui peut t'aider, en fait. Tu vois, t'es livré qu'à toi-même.
C'est
vrai. Si t'as pas les fonds. Pour monter une
c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
T'as rien. Tu peux gagner toute ta vie, t'as rien.
Mais oui, compter sur soi-même. C'est pour ça, moi, j'ai de l'admiration pour les jeunes, là, qui montent des petits trucs, qui osent. Parce que ils partent vraiment de loin, et avec rien. Et quand ils arrivent un petit peu à avoir quelque chose et à s'en sortir, je veux dire, on peut qu'avoir de l'admiration pour eux. Moi, j'ai aussi de l'admiration pour des gens qui viennent du pays, des hommes qui viennent de là-bas, ce qu'on appelle, et des femmes aussi, attention, qui viennent de là-bas et qui montent des choses ici. Alors, tu comprends, on les appelle les blédards. Moi, j'en ai à l'antenne souvent qui viennent de là-bas il y a quelques années et qui ont osé monter. Moi, j'en connais personnellement, qui sont venus, ils étaient sans papier et ils ont fait des petits travaux par-ci, par-là, tu vois. Honnêtement, où ils travaillent sur les marchés, où ils font des travaux de rénovation, etc. Ils ont monté leurs affaires. J'en connais qui sont venus. Aujourd'hui, ils ont monté leurs affaires. Ils emploient des gens et qui sont venus me bled. Tu vois, hommes et femmes. Moi, je connais des femmes. Elles ont monté. Elles sont venues de là-bas. Elles avaient leur métier, par exemple, notamment des coiffeuses que je connais. Eh bien, oui, avec leur diplôme de là-bas, mais elles se sont mis à jour ici avec leur diplôme, etc. Tu vois. Eh bien, aujourd'hui, elles ont monté leur salon de coiffure. Elles avancent, elles travaillent, elles se donnent à fond. D'autres dans d'autres métiers. Je veux dire que ce soit la petite restauration, des femmes aussi. Hein. Non, mais je veux dire, ils sont venus du pays. Et ils travaillent. Faut arrêter de dire ils viennent. C'est dingue.
Mais c'est,
des exemples comme ça, on en a des tas. Je te mets en attente, Hakim, je te reprends juste après. Hein. Ok ? À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beurre FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Confidence au 01 53 48 3000. Et on reprend notre ami Samir, notre grand ami Samir de Paris. Samir ?
Non, c'est Hakim.
Hakim, pourquoi je dis Samir ? Tu m'as parlé de Samir, je dis Samir. Tu vois, c'est le dernier prénom que je garde en tête.
Ah ouais, d'accord.
Pourquoi je dis Samir ? Bon. Tu m'as parlé de Samir, c'est ta faute. Il sera là demain, Samir. Hakim, oui, tu disais, oui.
Ouais, ce que disais, en fait, ici, en France, en fait, le gros problème pour un jeune qui veut plus ou moins créer sa boîte, sa propre boîte et tout, c'est quoi ? C'est l'investissement, tu vois ? Il n'y a pas assez d'investisseurs en France.
C'est compliqué même, de trouver. Hein. Même les banques, des fois, elles ne suivent pas.
Bien sûr. Ouais. Mais les banques, ils ne veulent pas suivre. Un jeune comme ça, qui sort, qui n'a pas forcément des diplômes, qui veut se lancer pour monter sa propre boîte ou je ne sais pas trop quoi,
ils vont
jamais le suivre. Après, tu as vu, il y a une association. Il y a une association qui aide les jeunes, tu vois, pour mettre leurs pièces, tu vois, comme on dit.
D'accord.
Ils investissent une petite pièce pour comme ça ils démarrent la personne. Mmh. Et la pièce qu'ils mettent, l'association, c'est quoi ? C'est même pas 2000 euros ou 2500 euros.
Ah ouais, ouais.
Quoi avec 2500 euros ?
Bah, tu vas pas loin, hein, ouais.
Tu vas pas loin.
Non.
Et puis, après ça, tu vois.
C'est pour ça que ces jeunes qui osent, qui ont ce courage et qui vont de l'avant et qui travaillent, peu importe, hein, parce qu'on ne peut pas toujours travailler à son compte, mais qui travaillent, tu comprends ? Mais ils sont très nombreux, tu as entendu Rachid. Rachid, son travail, c'est la nuit, tu sais, ces grandes voitures, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, hein, qui n'ont pas de toit, tu sais, ils ont juste une espèce de...
comme une remorque.
Voilà, il y a que ça. En fait, tu n'as que l'espèce d'estrade là, de longue. Et ils ramassent les Vélib pour les nettoyer, pour les remettre en état, tout ça. Tu vois, son travail, c'est ça. Et toute la nuit, il va faire que ça jusqu'au matin. Je trouve ça admirable. Vraiment, c'est magnifique.
Tu vois,
d'autres qui font dans la livraison. Pour commencer, faut bien commencer avec quelque chose, tu comprends. Mais qui travaille. T'en as énormément, on voit que ça. On voit que ça. Moi, quand je me fais livrer mes colis, tu sais, aujourd'hui, on commande beaucoup. Hein, au lieu d'aller, par exemple, acheter un truc, tu l'achètes sur Internet, déjà, il est moins cher. Et en même temps, t'as le choix, etc. Bon, on te propose beaucoup de choses. Et donc, il y a une grande entreprise qui fait ça, pour pas la nommer. Les livreurs, je vois souvent des jeunes de la communauté qui livrent, ils sont très nombreux. Je veux dire, il y en a beaucoup. Ils sont tous au taf, quoi. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Si tous ces jeunes qui voudraient foutre dehors parce qu'ils disent, s'ils n'étaient plus là, mais tu te rends compte, quand tu vas faire tes courses dans un supermarché, par exemple Carrefour, Leclerc, et Auchan, je suis obligée d'en citer trois parce que pour pas faire de pub. Quand tu vas dans ces supermarchés, que ce soit à la caisse, que ce soit dans les rayons, tu sais, pour faire les rayons et tout ça et tout, la nuit, c'est un rayon, etc. Que ce soit nettoyage, que ce soit les vigiles, que ce soit, beaucoup de la communauté de la vie de diversité, c'est vrai ou pas ?
Bien sûr.
T'imagines que toutes ces personnes qui sont là au service des citoyens français. Si ces personnes, les nounous, les tout ce que tu veux, si toutes ces personnes n'étaient plus là, je sais pas, hein, la France,
ouais, je sais pas comment,
la France, la France, à mon avis, deviendrait un désert. C'est le désert.
Oui, bien sûr.
Vraiment, le désert de Gobi, gars. Non, mais il faut vraiment. Alors, il y en a qui tombent dans le piège, malheureusement, parce qu'il y en a qui tombent dans le piège en disant oui, c'est vrai que les maghrébins, les musulmans et tout ça, il y en a beaucoup en France, machin, etc. Mais ils font tout, ils sont partout. C'est grâce à eux, si vous mangez, c'est vous qui, ils vous livrent votre manger. Je veux dire, ils sont partout. Ils sont partout pour que votre vie soit beaucoup plus confortable. Ouais, c'est pas notre faute que ça se passe comme ça. Les bâtiments, Les bâtiments. Bâtiments, quand tu passes, qui construit? Qui construit les bâtiments? En plein hiver, l'autre fois, il faisait un froid, mon Dieu. Je les entendais parler, ils avaient tous des accents. Ils travaillaient, mais chacun le bâtiment.
Oui. Ouais, tu parles de ça par rapport juste aux éboueurs. Tu vois les éboueurs? Là, regarde ce qui se passe à Marseille.
Bah voilà.
Tu vois, la grève des éboueurs. Voilà. Comment tu. Sérieusement.
Rien que ça.
T'es obligé.
T'imagines? Tu vas dans les hôpitaux. Les hôpitaux. Aujourd'hui, les médecins urgentistes, ils viennent des pays du Maghreb et d'Afrique. Ouais. Et les gens qui travaillent dans les hôpitaux, que ce soit dans tout le personnel hospitalier, d'où ils viennent? Tout à l'intérieur de l'hôpital, les vigiles, tout. Ouais. Mais c'est juste pas possible, c'est pas entendable ce qu'ils disent. C'est incroyable. Mais qui va leur dire? Mais qui va leur dire sur un plateau ce que je viens de dire là ce soir, en énumérant tous les corps de métier, ce que je viens de dire, et encore j'en oublie, voilà. Qui va leur dire ça?
Personne.
C'est juste pas possible. Les aéroports, tu vas à l'aéroport, qui fait le ménage dans les aéroports? Les dames de service là qui font. Qui travaillent, les bagagistes, tout, ceux qui font les bagages, les machins, etc. Tout. Qui? C'est incroyable. C'est fou. Mais c'est ceux-là, qu'ils le veuillent ou pas, c'est ça la France. Ils sont à l'image de la nouvelle France, qu'ils le veuillent ou pas, c'est comme ça. Ils sont allés à l'époque, quand il y a eu la colonisation. C'est pas de notre faute s'il y a eu une colonisation quand même. Il y a une colonisation dans ces pays qui a duré très 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 longtemps, ça a duré des siècles. Donc ces colonisations, après, eh bien ces gens, on les a fait venir pour construire la France, parce que la France à l'époque, moi je suis venue il y a assez longtemps, je suis venue toute petite, donc la France quand on est, je dis dans ces années, et il y a pas si longtemps quoi, je suis pas du 19e siècle. Je me souviens dans mes jeunes années dans le Marais, je parle du Marais, c'était vraiment le vieux Paris. T'avais la rue Vieille du Temple, pour les gens qui connaissent, eh bien la rue Vieille du Temple. Allez voir sur YouTube peut-être les archives de l'époque, il doit y avoir des images. La rue Vieille du Temple, quand tu passais sur les trottoirs, t'avais peur quoi. Pourquoi? Parce que il y avait ces espèces de poutres de bois qui soutenaient des immeubles. Je voudrais que tu allez sur YouTube ou je sais pas quoi, chercher sur Google, taper rue Vieille du Temple, les années 60, 70, voilà. Taper les années 70 ou 60, parce que ça date de ça a duré longtemps.
C'est un quartier, c'est un quartier.
Mais la rue qui est aujourd'hui, c'est un quartier Zama Bobo, mais à l'époque, c'était pas si beau. Moi, quand j'y vivais avec ma famille, c'était pas Bobo, c'était vraiment le quartier populaire, quoi. Et t'avais des poutres de bois qui tenaient des immeubles parce qu'ils allaient s'écrouler. Il n'y avait pas les moyens de faire des travaux. Et bien, tout a été retapé. Par qui? Par quoi, quoi? Tu vois? On a ramené avant cette immigration des anciennes colonies d'Afrique du Nord et d'Afrique pour reconstruire les immeubles qui allaient s'écrouler en France, qui dataient de Mathusalem, pour faire les autoutes qu'on a aujourd'hui, parce que les autoroutes, il n'y avait pas. Les ponts qu'on a, il n'y avait pas tout ça. Ben oui, mais ça, on l'oublie. Et aujourd'hui, celui-là, il vient, il va nous faire la leçon, celui-là et les autres, en nous disant, oui, il y en a trop, mais ça ne va pas, non? On est chez nous, qui a construit la France. Et les enfants, c'est leurs enfants qui sont là, ils parlent de leurs enfants. C'est fou. Ouais. Tu comprends?
Ouais, je comprends.
Le problème, c'est que les gens, tu vois, ta génération, vous savez pas comment que c'était le vieux Paris. Ouais. C'est Paris, tu marches dans la rue, il y avait des rats. C'était vraiment, c'est ça, rien à voir avec, tu avais des trous, il y avait partout, quoi, il y avait des pavés, il y avait, aujourd'hui. Mais oui. Et puis, au fur et à mesure, tu vois, qui construisait les immeubles, c'était toujours les mêmes. C'était les immigrés qui venaient, construisaient. Et ceux qui construisaient les voitures dans les usines, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de machines, mais il faut que l'homme soit derrière. Mais avant, c'était des hommes. C'est des hommes qui fabriquaient les boulons, les machins, etc. et tout.
Mais toi, t'as connu, excuse-moi Vanessa, t'as connu l'époque quand c'était toi les Champs-Élysées.
J'ai pas connu l'époque romaine, hein, quand même. Hein. Faut pas exagérer. Hein. Appelle-moi mamie.
Tu mettais des pavés sur les Champs-Élysées.
Vas-y, vas-y, dis-moi.
Recouvert de blé, non ? C'était pas, non, tu connaissais pas.
Ah non,
c'est...
Non, je... non, quand même, quand même.
Ah, quand même.
D'accord. Non, les Champs-Élysées. Non, il y avait, bon. Non, il y avait quand même les Champs-Élysées. Mais il n'y avait pas le, les blés. Tu m'as vraiment pris pour. Il m'a pris pour Cro-Magnon, après, là. Ah, tu m'as tué.
Non, mais je sais pas, tu me parles du.
Mais oui, mais il n'y a pas si longtemps. La rue Vieille du Temple, dans le quatrième, regardez, vous mettez poutres qui soutiennent, tu vois, des mots-clés bêtes. Voilà, poutres, soutien immeuble, rue de la rue Vieille du Temple, Paris, dans le quatrième. Ben, vous allez voir. Je vous mens pas, hein.
D'accord.
Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu, alors, tu vois. C'était vraiment.
Mais sur les Champs-Élysées avant, il n'y avait pas Louis Vuitton et toutes les grosses.
Ah, ben non, il n'y avait pas tout ça. Non, non, il n'y avait pas tout ça. Non, non.
C'était quoi, là, avant? C'était quoi?
Ben, il y avait. Je me souviens des Champs-Élysées quand j'étais jeune. Je me souviens, parce qu'avec mon oncle, ma tante, tout ça, on allait pour le défilé du 14 juillet. Maintenant, j'aime pas les armes et tout. Grosse remise en question depuis. Mais j'étais gamine. Il y avait des magasins, mais pas de comme aujourd'hui. T'avais quand même des magasins de luxe. Je me souviens qu'il y avait un magasin de fourrure, quelle horreur. Des magasins avec des robes de soirée, ça je me souviens. Il y avait des restaurants. Le premier fast-food américain, vous connaissez le nom, ben, il était là-bas il y a très longtemps, hein, puisque je me souviens...
D'accord.
Ah oui, 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 je me souviens, je pense, fin des années 70, parce que j'étais gamine quand... on allait manger là-bas. J'aimais bien le milkshake, moi. Eh bien, voilà. Donc, il existait. Voilà. Il y avait le passage, les passages des Champs, tout ce que tu connais, ces années-là. Les Champs-Élysées existaient. Ça a toujours été un peu le luxe de Paris, quand même. Hein.
Ouais,
mais tu sors des Champs-Élysées, laisse tomber, quoi.
Ouais, c'est même pas la peine.
Ouais. Après, ils ont construit... bah, la banlieue, tout ça et tout. Moi, j'avais mes copines qui étaient de confession juive parce que c'est le quartier juif de Paris. Eh bien, qui partaient au fur et à mesure, elles étaient contentes, hein, parce qu'elles partaient, dans des, tu sais, des appartements, luxe pour elles, c'était ça et tout. Puis bon, c'est Sarcelles, quoi. Mais à l'époque, c'était waouh, tu vois.
Ouais,
parce que bon, les appartements n'étaient pas si luxueux dans ces quartiers. Nous, on est très vite partis. Après, on est partis un peu plus haut, vers Hôtel de Ville. Parce que j'avais des parents Ah oui, j'avais des parents qui se battaient énormément et qui ont monté un restaurant et qui ont fait des choses, hein. Oui, oui.
Ah ouais.
Donc, comme toi, hein, qui se sont battus parce qu'ils voulaient vraiment que leurs enfants, ils voulaient vraiment pas aller habiter dans les banlieues ni rien. Non, non. Du tout, hein. Ils voulaient vraiment pour nous le meilleur, quoi. Donc, ils sont saignés, mais bon, j'avais un beau-père qui est décédé d'une méchante maladie très tôt parce qu'il travaillait énormément, jour et nuit, et qu'il était très courageux. Et ma mère a une petite santé, mais que Dieu me la garde le plus longtemps possible. C'est une femme qui travaillait jour et nuit. Je l'ai jamais vue, par exemple, se reposer ou dire, tiens, je vais faire une sieste. Ça n'existe pas chez elle. Ah non. Ah non. C'est une femme qui a, oui. Ouh là là. Bah oui. Bah, vous voulez le meilleur pour leurs enfants, tu vois ce que je veux dire? C'est, et pour ça, bah, il n'y a pas de repos, quoi. Et pas de répit, surtout. C'est ça. Voilà, Hakim.
Ah bah, non, moi, je voulais juste, en fait, je voulais juste retenir, tu vois, 5 minutes par rapport au sujet de ce soir, tu vois.
Oui.
Tu parles de la mort et tout. Ça,
oui, traumatique.
Très délicat, tu vois.
Oui.
C'est que moi, en fait, c'est que j'ai perdu énormément d'amis, tu vois, d'amis dans des circonstances, laisse tomber, tu vois, comme des règlements de compte,
comme des
accidents.
Ouais.
Et ça m'a marqué, honnêtement, parce que je suis parti aux enterrements et tout, et voilà quoi, ça m'a vraiment marqué.
C'est terrible pour les parents aussi, hein. Ouais. T'imagines, on leur dit votre fils. Tu sais, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses qui se passent, hein, les accidents, tu parles de règlement de compte, hélas, il y en a beaucoup. S'il y a des jeunes qui sont à l'écoute, je sais qu'on est très écoutés dans les prisons, tout ça. Je passe toujours des messages, j'ai envie de leur dire, vous êtes nos enfants. Et voilà, vous êtes les frères et sœurs de Hakim et de Rachid, etc. Moi, vous êtes mes enfants. Donc, faites attention, vraiment. Parce que regardez, ça mène pas loin. Vos vies, je veux dire, elles tiennent à un fil. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas ce qu'il y a de mieux. parce que cet argent, c'est un argent pas très propre, vous le savez, et en plus qui vous coûte très cher, parce que vous achetez votre mort. Et oui, vous achetez votre destin. Vous, voilà, parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez entre quatre murs, ou alors voilà, dans la rue, abattu, parce que voilà, il y a toujours des concurrents, des machins, je sais pas comment que ça se passe, des règlements de compte. Il y en a qui sont pas contents parce que c'est pas un milieu, c'est pas sain là, dans quoi vous évoluez. Donc les jeunes, vraiment, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Faites comme Hakim, vous voyez Hakim comment il se bat, il dit je le fais pour mes frères. Faites comme Rachid et d'autres qui se battent pour s'en sortir et qui font l'honneur de leur famille et qui vont, Inch'Allah je leur souhaite, avoir des enfants, des petits-enfants qui vont avancer dans la vie. C'est ça, c'est ça, la vie c'est ça et rien d'autre. C'est pas avoir de l'argent tout et tout de suite pour prendre autant de risques, ça vaut pas la peine. Ouais, regardez, comme tu dis, Hakim, c'est vrai.
Sérieux, c'est surtout les règlements de compte pour des broutilles. Honnêtement, pour de l'argent,
quelle horreur.
Qui va nulle part. Ouais. Qui va nulle part. L'argent sale, vous la prenez. Aujourd'hui, vous en avez. Demain, vous en avez plus.
Ouais.
Honnêtement, ça part super vite. C'est pas comme l'argent qu'on gagne comme tout le monde. Voilà, la sueur de son front pour faire des projets et tout. L'argent sale, ça mène à rien. Il n'y a pas de bénéfice.
Ben, les cimetières sont pleins. Ces jeunes. Tous les jours, on entend.
J'ai 2-3 amis à moi. Ils se sont fait abattus. Devant leur bâtiment. Leur voiture.
Quelle horreur.
Je t'en parle même pas dans quel état ils étaient, tu vois. En fait, c'est pas. Tu vois, Vanessa, ils ont pas été abattus. Genre je te tire dessus, c'est bon, fini. C'est des balles dans la tête. C'est pire.
Oui, il y a aucune chance quoi.
Il y a aucune chance.
Ah oui, il y a pas de place pour l'empathie, il y a pas de place pour la réflexion hein, parce que c'est un milieu hermétique, fermé, on comprend pas hein. Donc moi je leur dis les jeunes, attention, ne mettez même pas un orteil, je dis même pas un pied, un orteil dans ces histoires, dans ces milieux, surtout pas, vraiment. Essayez de sortir des quartiers où vous êtes, essayez de faire des projets, d'aller de l'avant, travaillez, de la livraison, etc. Vous allez voir, vous allez bouger, vous allez vers du monde. À la fin du mois, vous allez gagner votre salaire, vous allez être content d'avoir votre salaire, payer un loyer. Vous allez commencer par avoir un petit quelque chose. Allez, allez, on va dire une chambre, un studio en attendant. Et après, petit à petit, Inch'Allah, vous aurez un appartement. Après, vous aurez une femme, des enfants, vous serez à deux à travailler, vous allez vous entraider. C'est ça, la vie, c'est ce qu'attendent vos parents de vous. Vous n'êtes pas venu au monde pour mourir.
Oui, bien sûr.
Bêtement.
Mais, Vanessa, il faut bien comprendre les choses, c'est que les personnes, tu vois, ils évoluent dans un milieu, dans le quartier, dans la cité, tout ça. Tu vois, pour qu'ils s'en sortent, les jeunes, il faut qu'ils partent. En fait, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent parce que.
Ouais.
Parce que là, ils vont tomber dans le piège. Ils vont tomber dans le piège.
Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils trouvent le moyen de partir. Déjà avec un travail, parce qu'un travail, ça te sauve. Même s'ils rentrent le soir pour dormir, mais dans la journée ils travaillent, ou même s'ils travaillent le soir. Il y en a qui sont VTC. On a des auditeurs, ils nous racontent. Ils travaillent. Voilà, les premiers temps, ils vivent toujours là-bas, mais ils sont, des VTC ou autre chose. Je veux dire, mais trouver un boulot, quoi, juste pour vous en sortir. Ce qu'on appelle l'issue de secours. Voilà, hop, une porte de sortie. Et petit à petit, vous allez voir, une fois que vous avez un pied à l'extérieur, le deuxième, il va suivre. Et après, petit à petit, vous allez monter, pchouia, pchouia, et vous allez être fiers de vous plus tard. Voilà, vous allez devenir papa, grand-papa. C'est ça que vos parents, ils souhaitent de vous. Faites pas pleurer vos mamans. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, ceux qui vous disent, va vendre ça, fais ça. Ils vendent de la mort. Alors, vous dites que vous êtes croyant, mais vendre de la mort, c'est haram quand même. Et drame, donc, moussrine aussi. Non. Soyez raisonnables, vraiment. Un travail honorable, petit à petit, un petit salaire. Après, avec le salaire, parce que Izka, comme on dit, avec le salaire, il va prendre de l'ampleur petit à petit, vous allez voir, parce que c'est halal. Voilà. C'est ça qui est important. Regardez devant vous et n'écoutez pas ceux qui viennent vous susurrer à l'oreille vous disant tu veux gagner de l'argent, tu vas avoir tant de par jour et tout. Mais qu'est-ce que c'est? Celui-là, il ne te veut pas ton bien, j'ai envie de leur dire. Ils ne veulent pas votre bien. Parce que celui qui veut ton bien, d'ailleurs on le dit chez nous, écoute celui qui te fait pleurer, n'écoute pas celui qui te fait rire. Celui qui te veut ton bien, il te dit non, n'y va pas. Mais celui qui te dit, allez viens, je te veux ton bien, viens, vas-y. Celui, il veut pas ton bien, il veut ton malheur et celui de tes parents. Les jeunes, vous êtes en prison, ceux qui sont en prison, écoutez-moi. Vraiment, écoutez-moi. Ne faites plus jamais pleurer vos mamans. Vraiment. Elle vous a mis au monde, elle vous a porté pendant 9 mois. Rendez-lui le bien qu'elle vous a fait. Ne rentrez pas là-dedans. Votre mère, elle n'attend pas que vous lui donniez de l'argent. Elle s'en fiche de ça. Votre mère, ce qu'elle attend de vous, c'est de vous voir demain avec un foyer, tenir dans ses bras vos enfants.
D'être un homme.
Bien sûr.
Surtout un homme.
Exactement. Un homme. Voilà.
D'être un homme.
Mais oui. Mais oui, Hakim, tu as raison, Hakim. Tu as raison.
Après, tu as vu, après Vanessa, excuse-moi d'aller un petit peu plus dans la discussion.
Oui.
C'est que, tu vois, il y a aussi un autre phénomène que je ne comprends pas aussi, tu vois.
Oui.
C'est par rapport, tu vois, au gaz hilarant. Tu vois, il y a de plus en plus de jeunes.
J'ai vu ça à la télévision une fois. Il y avait les ballons, là, ou je ne sais pas quoi.
Les ballons.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Il y a eu un accident de malade. Je crois, ça, il y a 2 semaines, un truc comme ça.
Ah bon?
Il y a 4 personnes qui sont mortes.
Où?
Deux personnes qui sont mortes par rapport au gaz hilarant en voiture.
Quelle horreur!
C'est en plus des gamins.
Là,
16 ans. Et le conducteur, il est passé par la fenêtre.
Ah.
Le côté passager, il a cassé le pare-brise.
Oh mon Dieu.
Vas-y, tu.
Oh mon Dieu.
C'est un truc de dingue.
Ah, ça fait
peur. Les deux autres qui étaient derrière, voilà, ils ont tout vu.
Mais jusqu'où on va aller? Parce qu'à chaque fois, ils inventent des trucs nouveaux. Mais arrêtez les jeunes avec ces bêtises. Mbebekoum, arrêtez. Vous rendez compte? Franchement, c'est tout ce que vous avez à faire. Regardez le mal que vous êtes en train de vous faire.
Même des filles, Vanessa, des filles aussi. Des filles.
C'est incroyable.
Des petites gamines.
Ah ouais, non, c'est pas possible.
Des petites gamines.
Incroyable.
Elles essayent une fois, ça y est, elles sont piégées par le truc.
Ah là là.
Elles sont piégées. Et je voyais des gens, des filles, au feu rouge, voiture, à taper des ballons.
Oh là là.
T'as des frères, t'as des parents, tu tapes des gaz hilarants comme ça pourquoi en fait c'est pour rigoler voilà.
Ben va écouter des blagues, voilà. Je sais pas moi.
N'importe quoi.
Regarde un spectacle, je sais pas, il y a de l'humour partout. Mais rigoler, c'est rire. Ça c'est d'abord c'est un rire c'est synthétique ou je sais pas comment on l'appelle. C'est un rire artificiel.
Ouais.
Mais non, c'est pas comme bouteilles, ça. Et puis c'est tout, se faire du mal.
Des bouteilles. T'achètes ça 25 euros. T'en mets plein la tête. Tu te réveilles pas.
Non, les parents, faites attention à vos enfants. Faites attention à vos enfants. Ça file un mauvais coton. Ça va pas. Vraiment. Non. J'espère qu'ils sont à l'écoute ce soir, hein, ces gamins, parce que vraiment c'est. Quelle époque, hein. Quelle époque.
Excuse-moi, Vanessa.
Je t'en prie.
Parce que tu vois les parents de maintenant, là. Tu vois, ils connaissent pas ce genre de truc.
Ben non, ils connaissent pas.
Si un père de famille ou une mère de famille qui pose la question à sa fille ou à son fils, c'est quoi ça et tout, lui, il va dire quoi? Ouais, c'est un truc pour les gâteaux. C'est un truc pour faire les gâteaux.
Ah ouais.
Et, tu vois, c'est vraiment ça.
Ces trucs de. J'ai vu à la télévision un reportage.
Ouais.
Maintenant, ça a frappé mon esprit. Mais j'ai déjà vu des gens, des jeunes avec des ballons. Mais je pensais qu'ils gonflent des ballons. Tu sais, comme pour les anniversaires, on gonfle des ballons. Mais tu fais même pas attention parce que pour toi, ils gonflent des ballons. Voilà. Bon,
voilà,
ça les amuse. Oh. Mais après, quand j'ai vu ça à la télévision, je dis ah ok. Tu vois, ma génération ne connaît pas ça. Effectivement, voilà. Si on le voit pas, on sait pas. Ouais. Mais comment ça peut te rentrer dans la tête qu'en gonflant un ballon, tu es en train de te droguer? C'est incroyable.
Ouais, bah ouais. C'est incroyable.
Il y a
des capsules, il y a des bonbonnes, voilà, que tu remplis.
Tu remplis
le ballon avec la bonbonne.
Oh là là là.
C'est
là
bon,
là.
Tu t'aspires. Hein, t'aspires.
Oh, si tu te rends compte, ça va dans tes poumons. C'est du gaz.
Non, d'après ce qu'ils disent.
Dans les bronches.
Dans la tête, en fait, le cerveau. Ça s'attaque le cerveau, en fait.
C'est abominable.
Le cerveau.
Le cerveau.
Et c'est dingue. On vit dans une époque drôle, bizarre. Je sais pas dans quelle époque on vit.
Quelle époque? L'Istana, hein, c'est tout, hein. Vraiment. Ouais. Hakim, en tout cas, merci. Ouais. Tu as un message de Wesh Wesh sur Facebook qui te dit salut Hakim. Oui, c'est nos auditeurs. Alors, il écrit en même temps, il dit salut Hakim, bravo pour tout ce que tu fais. Tu es vraiment un exemple pour les jeunes en banlieue. Continue comme ça. Tu as toute ma considération. Voilà.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Voilà, wesh. Je te fais de gros bisous, Hakim.
Merci.
Très bonne soirée, reviens vite.
Bonne soirée.
Merci, à bientôt. Au revoir, Hakim. mais je tousse. Bah du tout. J'ai pas de l'eau parce que. Voilà. Ah, ça fait du bien. On a Kader qui nous appelle. On a combien de minutes là ? Kader est à ta radio, le haut-parleur. Kader, d'Alfortville.
On a 10 minutes.
Oui, bonsoir Vanessa.
Bonsoir Kader.
Comment vas-tu depuis hier ?
Mais écoute, depuis hier, je vais bien. Et toi ?
Ça va très très bien, merci.
Eh ben tant mieux.
Voilà.
Alors, Kader.
Voilà, donc, oui, en fait. La vie, elle est tellement remplie que les sujets, si on peut parler, on parle tout. Mais je vais rebondir sur ce que vous disiez là au début de
oui.
Avec Hakim et Rachid et tout.
Mmh.
En fait, sur le ce qui se passe actuellement sur le la scène, je vais même pas dire politique, mais mmh. Le mot il est très honnête pour qu'il soit pour ce que cette paroles nous avons sur les plateaux et tout.
Oui.
Et voilà, en revenant sur un sujet, en fait, c'est qui est l'immigré aujourd'hui, c'est qui est l'étranger aujourd'hui en France. En fait, l'étranger aujourd'hui, c'est le maghrébin et l'africain et le musulman. C'est lui l'étranger. Et c'est lui l'immigré. Parce que la France, c'est un pays cosmopolite depuis les Gaulois. Donc, ils vont pas nous apprendre l'histoire de la France. Et du coup, il y a les Polonais, il y a les Hongrois, il y a les Romains, il y a les Italiens. Avant, c'était dans les années 1900, il y a eu les Espagnols, il y a eu les Portugais, il y a eu tout. Mais ce sont pas des étrangers. L'étranger, c'est celui qui vient derrière la mer, de l'autre rive.
C'est ça. Voilà. Oui, moi j'ai entendu quelqu'un qui disait justement dans un débat... Et c'est vraiment décomplexé, parce que je comprends pas qu'on puisse laisser passer des propos pareils, qui disaient « Oui, mais... » parce que je sais plus qui lui a répondu « il n'y a plus d'immigrés, puisque de toute façon, ils sont français, ils sont nés sur le sol français, ils sont français. » Et puis l'autre qui répond... il dit par exemple, avant, il y avait ce que tu viens de dire, les Portugais, les Italiens, les Espagnols, c'était des émigrés aussi quand ils venaient. Alors donc on peut aussi, ils viennent d'ailleurs, et il dit non c'est pas pareil, ils viennent d'Europe, etc. Tu vois, il a bien fait la distinction sur un plateau. Hein.
Oui, non, mais
c'est fou, hein.
Mais c'est ça le
incroyable.
Et le grand tort, si je peux dire ça, un tort à nous pour ne pas percer dans la société comme il faut et tout. Mmh. En fait, c'est l'idée en elle-même de l'immigration que nos parents ils sont venus. Moi, mon père il était là. Moi, je suis né en Algérie, mais mon père il était là avec ma mère. Après, ils sont rentrés.
Mmh.
Donc,
bah oui,
on s'est parti en Algérie.
Mmh.
En fait, c'était l'idée qui sont venus avec et qu'ils l'ont incrusté dans la mentalité de leurs enfants et d'ailleurs pour tout le monde, c'était on est là pour une période et on va partir, on va construire en Algérie ou bled, je veux dire l'Algérie c'est mon pays mais mm-hmm. c'est pas là pour tout le monde.
Oui,
et
c'est
on va repartir, on va pas rester ici.
Mm-hmm.
Donc il y a toute une génération qui a des montées comme ça
et
du coup elle dit oui du jour au lendemain on va partir. Donc c'est pas la peine peut-être j'exagère dans l'analyse.
Non tu n'exagères pas, c'était vraiment la majorité pensait voilà. Comme ça.
Même pendant le je crois que c'était en 68 ou en 69 quand ils ont appelé tous les Algériens soit de prendre la nationalité française soit de prendre une carte séjour parce qu'ils étaient juste avec une carte d'identité jusqu'à je crois 69.
Oui.
Mon père il a dit non donc il a pris la carte de séjour
comme tous les parents
voilà donc c'était et donc mais ces mots qu'on parlait hier déjà sur ces mots là ils sont restés gravés. Et du coup, aujourd'hui, malheureusement, on a des élites qui sont dans la société issues de l'immigration et surtout maghrébine et africain. Quand je dis maghrébin, ça veut dire que c'est africain. Il y a pas une distinction dans mes propos.
Non, ben je comprends.
Mais ils sont pas visibles. Et la majorité, on arrive à un certain niveau dans la société et on stagne. On fait plus rien.
Attends, excuse-moi, t'interrompre parce que j'oublie. Kader, ce que tu viens de dire, c'est très important. Tu dis, ils sont pas visibles. Le problème, justement, de ceux qui veulent rendre ces gens invisibles, eh bien, parce qu'ils parlent fort, ils prennent, ils prennent tout l'espace, je dirais tout l'espace médiatique. Alors, donc, et c'est eux qui veulent les rendre invisibles. mais ils sont hyper visibles. Tiens, j'ai une conductrice de bus qui nous appelle régulièrement, qui m'envoie,
oui,
qui écoute.
Je connais, oui.
Bah oui, elle écoute l'émission, elle m'envoie des messages là en ce moment, en privé. Elle me dit dans son dépôt, sur les 800 conducteurs de bus comme elle, hein, les 800 dans son dépôt seulement, hein, il y a 790 sur 800, hein, 790 d'origine, bah, maghrébine, africain, voilà. Elle vient de me l'envoyer là. D'origine étrangère. 790 d'origine étrangère. Voilà, de la diversité. Dans, voilà. Sur les 800. Alors, donc, il y a un truc quand même. Voilà, elle, elle travaille dedans. Elle... Alors, donc, tu as raison de dire ça. Parce que, tu dis, invisible. C'est eux qui veulent rendre absolument invisible ce qui crève les yeux, ce qui est hyper visible. Parce que, les, justement, cette diversité maghrébine, africaine, elle est partout. Elle est partout. Les hôpitaux, il n'y a que ça. Les mairies, là où tu vas, il n'y a que ça. Tu vas faire tes courses dans les supermarchés, dans les centres commerciaux. Tu les vois partout, partout. Les aéroports, il y a partout, 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 partout. Ils sont trop... Le problème, pourquoi ils dérangent ? Parce qu'ils sont trop visibles. Voilà.
Oui,
t'as besoin d'un service, il n'y a que... Voilà. Voilà. Non, les ambulanciers, partout. Citez-moi un corps de métier. Voilà.
Voilà. Vanessa, mais ce que je veux dire.
Non, mais tu as raison.
Voilà. Mais par rapport à ça, c'est-à-dire, on n'est pas visible. Je veux dire, dans les élites, c'est-à-dire, on n'a pas percé dans certains domaines.
On a percé. Tu peux pas dire ça.
Voilà.
Parce que on te. Parce qu'on. Mais oui, mais. Attends, parce qu'on les invite pas. On les invite pas.
C'est pas question sur la scène médiatique. Je parle pas sur la scène médiatique.
Oui, mais si, exemple, mais si, voilà. Parce que c'est comme ça que tu existes. Si t'es pas dans un média, par exemple là ce soir, si on parle pas, eh bien on nous entendrait pas.
Voilà.
Un média, ça sert à ça. Je te dis une chose. Justement, ils n'existent pas parce qu'on les voit pas. Parce qu'on ne les voit pas, oui, on pense qu'ils n'existent pas.
Voilà,
mais sinon, bien sûr qu'il y a des élites. Je peux te le. Alors vraiment, je te le promets sur tout ce que j'ai depuis Cher au Monde. Il y a des élites plus qu'il n'en faut. Aux États-Unis, celui qui a trouvé le chercheur, qui a trouvé, je sais plus ce que c'est par rapport au Covid, etc. Je crois que c'est un Algérien. Tu en as un autre. Il est aussi des pays du Maghreb ou je sais plus. Je veux dire, il y a des chercheurs. Il y a de grands médecins. Il y a de grands chirurgiens. T'as des gens vraiment des têtes vraiment. Quand tu parles d'élite. Moi, je vais au-delà des élites. Pour moi, c'est des têtes, des cerveaux.
Oui, Vanessa.
Mais toi, tu te bases que sur ce que tu vois. Oublie ce que tu vois.
Regarde-moi.
Les médias mentent. On ne nous montre pas la vérité.
Je vous ai dit hier, qu'est-ce que je vous ai dit?
Non, mais c'est vrai. Mais quand tu dis les élites, ils manquent. Non.
Voilà.
C'est le message qu'ils veulent passer.
Voilà.
Il y a plus d'élites, à mon avis, de la diversité que des élites qui ne sont pas de la diversité. Voilà,
oui,
je peux m'avancer à le dire.
Voilà, mais ce que je veux développer par rapport à ça, c'est-à-dire là vous avez dit les médias. Moi je vous ai dit hier qu'il y avait une commission sénatoriale pour qu'ils aient convoqué tous les riches, les 8
oui, et alors
qui sont en France. Voilà. Et du coup, ils les ont tapés sur la table. Pourquoi il y a cette discrimination dans la parole et on crée des personnages et on les finance et on les met sur la scène médiatique et on verrouille pour le reste du monde.
C'est ça.
Personne ne passe.
On verrouille.
On parle.
C'est
donc voilà. Donc si ce que je voulais développer, c'est ça.
On crée des personnages. Moi, c'est comme ça.
Voilà.
Parce que pour moi, des élites, ça ne veut rien dire. On crée des personnages parce qu'on a décidé de les mettre en avant. On met en avant qui on veut, hein. On pioche.
Voilà, bien sûr.
Et on pioche de temps en temps une personnalité, une personne comme ça dans la diversité pour dire la parité. On va mettre quelqu'un, Zahma, Mohamed, Kamel, tout, comme ça, Zahma, on le pioche. Et voilà, il y a eu ce matin dans une émission, je ne nommerai pas, sur une chaîne d'info entre guillemets, voilà, il y a eu quelqu'un sur le plateau qui a dit oui, mais pourquoi par exemple, il reprochait à l'animateur, pourquoi vous invitez pas souvent, par exemple, des gens, des jeunes de la diversité, il y en a beaucoup, etc., qui auraient des choses à dire. Il dit oui, mais vous savez, quand on invite les gens, écoutez la rediff, mais vraiment, je peux pas donner le nom parce que je peux pas, j'ai pas le droit. Mais écoutez la rediff, il y en a pas 36. Il dit, comme ça. Alors, donc, avec ses propos à lui, il disait, oui, mais genre, on peut pas donner la parole à n'importe qui comme ça parce qu'il faut être préparé. C'est compliqué de parler dans un média, dans un micro. Ça peut être genre impressionnant ou alors il voulait dire qu'il faut en être capable. Moi, ce que j'ai entendu surtout, c'est qu'il faut avoir les capacités. Et ça, c'est hyper discriminant. J'étais chez moi, j'écoutais, je me préparais pour venir pour les petites annonces, j'écoutais et j'ai mis le poste, enfin la télévision, voilà, très. J'écoutais, j'étais dans ma salle de bain, je me préparais, tu vois, pour te dire. J'ai hurlé, ah, c'était toute seule, comme une folle, j'ai hurlé. C'était juste pas possible d'entendre ça.
Bah oui, bien sûr. Non,
tu comprends? Mais c'est alors, attends, deux minutes.
Malheureusement.
Oui, attends. Rachid, tu es là, Rachid?
Oui, madame.
Tu voulais intervenir. Alors, Rachid et Kader, vous allez patienter une petite minute. On a une pause.
Pas de soucis.
Et je vous mets tous les deux, je vous laisserai parler tous les deux en même temps. OK? Allez, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beur FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit au 01 53 48 3000. Et nous sommes avec Rachid et Kader. Rachid de Paris et Kader d'Alfourville.
Kader, enchanté.
Voilà. Alors, Rachid, Kader, allez-y.
Oui, en fait, voilà, Kader, en fait, je m'appelle Rachid. En fait, excuse-moi, t'as coupé la parole. En plus, t'es plus grand que moi, mais comme je suis au travail, je suis au volant, je suis désolé. J'ai juste pour 30 secondes nucléaire. Désolé.
Mais tu m'appelles Rachid,
une histoire. Merci, Kader. En fait, tu m'as fait rappeler une histoire, en fait, quand j'étais petit à l'école, en 93 à l'ancienne, encore une fois. Et en fait, à l'époque, je connaissais pas le terme spécifique qu'on dit, ça compte pour du beurre. Admettons, si on fait un cache-cache, on fait un petit jeu, genre style pouce, ça compte pour du beurre. Et en fait, ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire qu'en fait, quand t'es pour du beurre, en gros, ça veut dire qu'en fait, le maghrébin ou l'arabe, je sais pas comment on dit ça, en gros, il compte pour du beurre. En gros, il est pas reconnu vis-à-vis de l'État, ou je sais pas ce qu'on m'a raconté. Après, je sais pas.
Ah oui, non. Alors, le mot beurre est arrivé les années 80, après, voilà, il y a eu la marche des beurres, etc., dont Beurre FM, a beaucoup participé, etc., et même à la naissance de... Alors que cette locution, hein, qui est une locution très connue, qui est utilisée depuis le 19e siècle. Hein.
D'accord.
Ça veut dire ne pas avoir d'importance. C'est vrai que c'est quelque chose de péjoratif, mais qui ne concerne pas du tout la communauté, puisqu'elle existait depuis avant. À l'époque, eh bien, la vision du beurre, c'était quelque chose genre... tu vois, ça coule, le beurre, etc. C'est pas quelque chose de
d'accord.
très... Voilà. Mais c'est le mot beurre, hein, B-E-U-D-R-E. Hein, c'est vraiment la... c'est vraiment le beurre qu'on connaît, qu'on tartine, etc. Hein, qui est gras, et voilà. Tu comprends, je pense que c'est... voilà.
Ok, c'était juste...
Voilà.
Allez,
d'ailleurs, je vais la chercher, hein, là. Ouais. Compter pour du beurre, je vais te donner vraiment...
Parce qu'en fait, pendant beaucoup de temps, je pensais que en fait, c'était vraiment un truc, on va dire.
Ah oui, non, c'était bien avant. Je vais te dire d'où vient cette expression.
Je vais la lire. Comme avec ton travail, donc tu circules énormément la nuit et tout. Oui. Moi, une publicité, elle m'a choqué. Je sais pas, Vanessa, si vous êtes au courant ou pas de ça. On va pas faire la publicité pour cette société qu'elle fait des auxiliaires de vie et aides ménagères pour les personnes dans les maisons et tout, et c'était marqué grand, c'était à Lyon, et c'était comme ça, si vous avez besoin d'un Fatma,
incroyable,
contactez-nous.
Ah ouais,
et Fatma, c'était le prénom qui était donné aux Algériennes à l'époque qui travaillaient, que c'était des bons qui travaillaient dans les propriétés chez les colons.
La Fatma,
Et du coup, ça a donné, ça a parlé, mais voilà, en fraction de seconde sur une chaîne. Et du coup, ils ont fait des excuses, ils ont retiré. Mais il n'y a aucune plainte sur ça. Pourtant, c'est discriminatoire, c'est pire que le racisme.
C'est du racisme, ouais.
Voilà, et les personnes qui étaient... sur ces fiches publicitaires sont tous des Africains.
Oui, c'est-à-dire, j'ai pas entendu.
En fait, ils ont fait une campagne de publicité avec des affiches dans les panneaux là, sur la voie publique.
Ah oui, j'ai vu ça.
Et du coup, il y en avait une, c'était si vous avez besoin d'un Fatma, et les autres...
C'était quand ça avait,
c'était
quand
c'était récent, là, il n'y a même pas une quinzaine de jours.
Vous avez besoin d'une Fatma?
Oui.
Ah bon?
C'était à... oui, oui, c'était des affiches à Lyon et ça fait scandale et
c'est
tout.
C'est pas
mais...
vrai.
Voilà. Ouais,
mais
oui,
qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, non. Mais après, on a étouffé l'affaire et voilà, on parle plus parce que voilà, ça, ça porte préjudice à ceux qui sont en train de. De chanter toute la journée les étrangers des étrangers quoi donc et c'est ça le tout à l'heure quand je développais et je vous ai dit qu'on n'est pas visible c'est
ah ouais, c'est je vois devenez Fatima
voilà
une pub sur les auxiliaires de vie
voilà
alors donc accusé d'entretenir l'imaginaire colonial
devenez Fatima. En gros pour se faire un peu d'argent je pense qu'ils ont envie d'utiliser un peu les Africains, dans tous les paramètres, dans les pubs, dans plein de trucs.
Oui, on est véhiculé dans certaines catégories, tout à l'heure, quand tu disais...
Quand ça les arrange.
Bien sûr, mais nous, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, je crois qu'il s'appelle Fernand... comment il s'appelle
Fernando.
Ouais, le fameux sketch sur le l'étranger.
Ah oui, c'est...
Fernand Reynaud,
oui.
Fernand Reynaud, ouais. D'accord. Il y avait, dans son sketch, en fait, il disait qu'il haïssait l'étranger qui est venu manger...
Manger le pain des Français. Oui, mais lui, c'était voilà. Justement pour dénoncer. Ah oui.
Oui, pour dénoncer.
Oui, parce que c'était quelqu'un plutôt de...
L'actualité aujourd'hui.
Ah oui.
Et quand l'étranger, il en avait marre, il est parti, bah, ils n'avaient plus de pain parce que c'était le boulanger de la commune.
Ben, oui, mais alors moi, je voudrais que les gens de la communauté... rectifient leur langage, hein, qu'ils essayent un petit peu de surveiller leur langage concernant, par exemple, les gens qui viennent du pays. Parce que quand ils disent, moi je les entends, hein, et des fois à l'antenne je les reprends à chaque fois, hein, quand ils disent blédard, ben moi ça me choque aux oreilles, pareil, hein, la même chose.
Pareil.
C'est vrai, et c'est des gens de chez nous qui le disent, hein. Souvent ils disent, ouais, il est blédard.
Je te raconte une.
Alors, donc c'est la même chose, la stigmatisation, elle est aussi, interne, hein, elle est aussi chez nous. Hein.
Tout à fait.
Oui.
Voilà. Vanessa, je te raconte une anecdote.
Oui,
j'arrive dans un magasin pour prendre une commande.
Oui.
Et du coup, je trouve d'autres livreurs qui sont devant moi. Mmh. Et la responsable là qui nous donne les commandes et tout, donc elle s'est pris la tête parce que en fait, elle nous calculait même pas quoi. On n'était même pas là pour elle. Mais nous, en fait, on gueule parce que notre chiffre d'affaires, en faisant des courses.
Ben oui.
Et du coup, le monsieur qui était devant moi, donc il lui a parlé, et il parle pas bien le français, mais il se fait comprendre, normal et tout. Et donc, elle l'insulte, elle lui a dit espèce de blédard.
Ah ouais.
Et donc, lui, mais il a répondu, il a
incroyable.
Donné une réponse, Vanessa, non, mais il a donné une réponse, je l'ai pris dans mes bras. Wallah,
ouais. Qu'est-ce qu'il lui a répondu?
Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, bah, ma chérie, comme tes parents.
Ben oui, c'est ça. Ben oui, nos parents c'est des blédards. Hein.
Ah ouais.
Et nous-mêmes on est blédards. Ben oui. De toute façon tout le monde est blédard. Non mais la bêtise justement c'est que bled ça veut dire pays ou ville. Bled c'est ça.
Ouais.
Tu comprends?
Ouais, non,
donc je veux dire le bled tu peux être de New York c'est un bled. Mais ce qui est dérangeant et stigmatisant c'est de dire quand on s'adresse ou quand on parle de quelqu'un qui est du même pays juste parce que lui il est arrivé récemment, eh bien de dire c'est un blédard et ça c'est des gens de la communauté de chez nous qui le disent.
Ah oui.
Des
oui,
jeunes qui sont nés en France qui vont dire ah ouais c'est un blédard, tu vois, ça c'est terrible, ouais. Terrible. Alors donc qu'attendre des autres quand toi-même tu stigmatises les tiens? C'est ça qui est terrible. Alors pour terminer avec ça parce qu'on a la pause après. L'histoire du beurre. Alors j'ai cherché, hein, d'où vient l'expression compter pour du beurre. Alors donc ils disent c'est une expression qui s'est imposée au 19e siècle comme je disais et qui tire son origine d'une vision très ancienne durant l'Antiquité déjà les Grecs et les Romains considéraient en effet le beurre comme la matière grasse du pauvre. D'ailleurs, ils l'utilisaient très peu en cuisine et ils faisaient plutôt office de produits d'entretien pour le cuir, le cosmétique, pour faire briller les cheveux ou encore de médicaments car ils soulageaient les brûlures. Alors, donc, à l'époque, c'était ça. Et disponible toute l'année, le beurre de base était largement apprécié par rapport à l'huile d'olive, un produit noble que l'on ne produisait qu'une fois par an. Une situation qui a duré jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Voilà, donc c'est... Ah oui, alors ça, c'est très intéressant. Dans le même ordre d'idée, on disait aussi d'une personne qu'elle vendait du beurre pour signifier qu'elle était inintéressante. Donc on a commencé par dire arrête, tu vends du beurre, tu vois. C'était une expression à l'époque. Genre t'es pas intéressante. Et puis après on dit qu'elle compte pour du beurre. Alors tu vois, ça vient pas de.
Ouais, mais c'est des étiquettes qui collent. Et franchement, ça fait c'est pas que ça fait mal, mais ça freine beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure sur l'initiative des jeunes. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'étais confronté juste pour ouvrir un compte professionnel.
Mmh.
Vanessa, mais je te dis même pas. J'ai fait la tournée, comme il disait, la tournée des bars. Moi, j'ai fait la tournée des banques.
C'est incroyable. Ouais, ouais.
Parce que voilà, t'arrives, ils te demandent un montant, mais j'ai dit, mais je vais travailler, l'argent, elle va rentrer. Ah non, mais il faut un capital pour ouvrir un compte professionnel. Et les frais de gestion de compte professionnel, je ne sais même pas combien ils sont.
C'est fou, hein. C'est
donc
fou,
les,
incroyable.
Les jeunes qu'ils veulent... Les c'est très, très, très difficile.
C'est pour ça que les jeunes, je leur dis, avant de vouloir déjà... de gravir les étages, parce qu'il y en a qui veulent arriver au cinquième étage sans passer par le premier, comme je le dis souvent, hein. Darja, palier par palier, voilà. Marche par marche et palier par palier. Il faut commencer déjà par travailler, trouver un travail, hein, voilà. Rachid, il est où? Ah, ben, il était. Rachid, je t'entendais plus. Oui, Rachid, il est là. Vas-y, Rachid. Je te laisse parler.
Non, par rapport à la jeunesse de maintenant, je trouve que la jeunesse de maintenant, franchement, se débrouille. Voilà, ils sont tous motivés à travailler. Après, c'est juste l'occasion de trouver un travail. Vous savez, quand vous postulez pour un travail, vous habitez dans 93 ou je sais pas. Moi, je l'ai vécu. Personnellement, je l'ai vécu auparavant. Que j'habite dans tel endroit ou je sais pas quoi, où on me reproche. Et pourtant, à l'école, j'ai bossé comme tout le monde. J'avais ma trousse, j'avais mon cartable, j'avais un petit bouquin. Et j'allais à l'école.
Bien sûr.
Justement, voilà.
Et t'habitais où? T'habitais dans une cité?
93.
D'accord.
93, parce que c'est dans les départements, apparemment, où les gens n'aiment pas trop.
Et il y avait des bandes, il y avait tout ça, il y avait des.
Non, mais après, des bandes, Vanessa, t'as pas tort, c'est vrai. Mais après, c'est des bandes à laquelle vous passez, il y a rien à craindre.
Non, mais c'est pas ça. Est-ce qu'on n'a pas essayé de t'enrôler quand t'étais petit, t'étais jeune? Parce que, bon, t'as toujours des têtes un peu. Tu vois ce que je veux dire? Des têtes brûlées qui veulent enrôler les gamins. Voilà ce que je veux dire.
Tout à fait.
Donc, est-ce que tes parents, justement, étaient vigilants? T'es pas tombé là-dedans, grâce à tes parents. Grâce à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
L'encadrement des enfants chez moi, des grands chez moi, à l'époque, vous savez, on a toujours
un grand frère.
Chez toi. Un espèce de Pascal le grand frère, voilà, tout à fait.
C'est ça, il y avait les grands frères avant.
Pascal le grand frère, il vient chez nous, 93.
Ah ouais.
Voilà, c'est quelqu'un qui a bon fond. C'est comme Banal Montiel de l'émission, là.
Oui.
À Marrakech, c'est un gars de ouf.
Ah oui.
C'est une crème.
Ah oui, il y a des gens bien, hein.
En fait, je l'avais abordé dans l'avion parce que les gens voulaient faire des snaps, je sais pas quoi.
Oui.
Et à un moment, en fait, il s'est assis près de moi. Tu sais, moi, style, je m'en. Oui. C'est pas parce que c'est.
Bien sûr.
Voilà, et après, on a commencé un peu à parler.
Oui.
Monsieur Bana Montiel, franchement, il a un passeport marocain. Ah, il m'a. Non, c'est quelqu'un de ouf.
Il est sympa. Mais il a l'air, hein, ça se voit. Hein. T'en as des comme ça. Hein. Il y en a un que j'aime bien aussi, c'est Gilles. Comment il s'appelle? Non. Je sais plus comment il s'appelle. Gilles dans la bande, hein. Voilà, j'avais rencontré d'ailleurs sa femme Fatou qui est adorable, hein.
Gilles Verdez
et sa femme, elle m'avait fait un soin parce que elle est esthéticienne et j'étais tombée par hasard et puis on avait sympathisé. C'est une femme qui est exceptionnelle, adorable, voilà, je crois qu'elle est d'origine sénégalaise. Donc, magnifique, très jolie femme intérieurement et extérieurement, vraiment. Et elle est à l'image de... Enfin, ils vont bien ensemble. 01-53-48-3000, Rachid, Kader, ne partez pas. Louisa de Toulouse, Houria, Fernando, tout le monde, ne partez pas. On a une petite pause. Vous savez comment que ça se passe? C'est de la radio.
Le son avant? Oui, le son avant.
Alors, son, oui, avec Mohamed Lamine. Une jolie chanson que je vous ai concoctée aujourd'hui. Mohamed Lamine avec Chao. Très jolie chanson qui va vous faire du bien. D'accord? Ah oui, pardon. Oui. Ah, il faut que j'apprenne, hein, cet écran. Le tactile et moi, on fait deux, hein.
Oui, mais tu te débrouilles très bien ce soir.
Il est trop moderne. C'est vrai, je me débrouille.
Bien sûr.
Je suis une bonne élève. Bon, merci.
Très, très bonne
Giovanni.
Élève.
Allez, on va se faire un petit Chaoui Mohamed Lamine pour se faire plaisir. Bonne écoute et on reprend juste après avec nos amis. À tout de suite. Très, très, très belle chanson de Mohamed Lamine avec cette très 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 jolie voix. Et Chao également, 01 53 48 3000, vous êtes sur Beurre FM. Confidence jusqu'à minuit avec Rachid et Mehdi. Rachid de Paris, Mehdi. On termine parce qu'on a d'autres appels. Rachid, Mehdi, vous êtes là les garçons. Merci, oui, hein, merci Rachid, oui. Il a laissé son travail, Mskin. Il travaille en
non,
même temps.
Au contraire.
T'es en plein boulot là, t'es en plein boom.
Au boulot, on m'entend, je sais. Non, au contraire, je tape en même temps.
Tu travailles tout le temps, toi, t'arrêtes pas. Ah ouais, vraiment. Un courageux, magnifique.
Alors écoute, Vanessa, je vais pas vous embêter. Monsieur Mehdi, prends soin de toi. Bonne continuation, Giovanni, Panzani, non, je vais
allô.
Giovanni, Bogot.
Panzani, il a dit Panzani.
J'ai droit, souvent, j'ai droit.
Ouais, tu as droit. Surtout que les Panzani, c'est des pâtes françaises, hein. Au cas où vous le sauriez pas.
En plus, c'est vrai.
Ah oui, c'est une marque française.
Mais maintenant, on doit en citer trois autres.
Ouais, alors donc.
Eh ben, on va citer les miennes d'Italie. Lustucru, les Barilla.
Barilla, voilà. Et puis les meilleures, c'est celles de maman, celles qu'on fait à la maison.
Et voilà, et ça, c'est
et
la plus grosse marque.
Et qu'on appelle Rista. Rista. C'est vrai, hein, Rista. C'est des pâtes fraîches qu'on fait à la maison. Bon, Rachid, bon courage, hein, c'est un courageux. Bon courage ce soir, toi et tes collègues. Mehdi, je t'embrasse très fort aussi. Et revenez vite, les garçons. Là, on a une pause, c'est de la pub, c'est normal. Faut que la radio, faut qu'elle vive, hein. Voilà. Et puis, juste après, on a Louisa, Houria. Allez, pause.
Confidence. Reviens dans un instant. Beurre FM, 22h minuit, confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit au 01 53 48 3000. Je vois plus Houria. Houria, tu es partie déjà? Qu'est-ce qui se passe? Et Mehdi aussi. Allez, Houria, Mehdi, je vous attends. Allez, ils sont pas patients, dis donc. Louisa, bonsoir, Louisa de Toulouse.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, Louisa.
Merci beaucoup. Je voulais vous dire simplement que j'admire votre patience.
Je t'entends pas très bien, Louisa. Tu as laissé quelque chose d'allumé?
Non, oui, c'est.
Alors, éteins ta radio, le haut-parleur, ma chérie.
C'était.
C'est bien. Alors, tu disais.
Quoi? Vous m'entendez là?
Oui, oui.
Je ne vais pas m'exprimer parce que je suis malade.
Tu es malade?
Oui.
Qu'est-ce que tu as?
Je vais m'exprimer. J'ai eu l'occasion de parler avec vous. C'est la troisième fois que je parle avec vous.
Bon, ben écoute, ça me fait plaisir.
Formidable.
C'est gentil. Merci, Louisa. Merci, ma chérie. Qu'est-ce que tu as en ce moment? C'est quoi?
J'ai pas l'occasion de parler avec vous
souvent. Oui.
Je vais m'exprimer, je suis malade.
Tu as quoi comme maladie?
Je suis malade.
Louisa, ma chérie, qu'est-ce que tu as comme maladie? C'est quoi ta maladie, Louisa? Tu m'entends?
Parkinson.
Oui. D'accord. Et bien sûr, c'est des soins lourds, hein, c'est. Ouais.
C'est ça.
Ouais. Mais il faut suivre. Faut vraiment pas lâcher.
Je ne lâche pas.
Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a de l'amélioration un petit peu?
Non, ça se dégrade.
Ça s'aggrave?
Ça se dégrade.
Ah
ouais. Ouais. Oui.
D'accord.
Plus je m'avance.
Il faut garder le moral, hein, tu sais, c'est une maladie, il faut garder le moral. C'est pas facile, mais il faut le garder. Est-ce que tu es entourée, Louisa?
Oui.
Tu as de la famille?
Oui.
Ah, ça c'est important.
Des enfants formidables.
Des enfants? Oh là là, mon Dieu, tant mieux. C'est important. Quand on traverse des moments difficiles comme ça, c'est comme ça, la vie est faite d'épreuves. C'est pas le paradis, c'est pas l'enfer, mais c'est l'entre-deux, on va dire.
Moi, je veux dire pire que moi.
Comment? Oui, oui, il y a pire. Voilà, tu relativises. Bravo. Bravo. Voilà. C'est bien.
Oui, je sais pas ce que le sujet aujourd'hui. Je ne sais pas entendre le sujet.
Tu es fatiguée. D'accord.
Oh non, le sujet.
Comment?
C'est quoi le sujet d'aujourd'hui?
Le sujet? Oh, le sujet, on parle de tout. Voilà, de la vie. Si tu as quelque chose à dire, vraiment qui te tient à cœur, fais-le. Voilà. Ça peut être quelque chose de joyeux aussi, pourquoi pas. Hein? Donc tu peux parler de ce que tu veux, Louisa. Si tu as quelque chose sur le cœur, si tu as envie de vider ton cœur, si tu as envie de pousser un coup de gueule, eh bien écoute, fais-le. Des fois, ça fait du bien. Oui. Et donc, ils sont jeunes, tes enfants?
La dernière, elle a 33 ans.
33 ans, la dernière?
Oui.
Ah oui, donc l'aîné, elle a quel âge? Oui, il a quel âge?
37.
37. Tu en as combien? 3?
3.
3. Oh, j'ai pile, dans le mille. qu'est-ce que je voulais dire? Et ils sont gentils, tous les trois.
Ah oui.
C'est des garçons, c'est des filles? Qu'est-ce que tu as?
Deux garçons et une fille.
Ah, c'est bien. C'est bien, choix du roi. Ils sont gentils, tous les trois. Tu les as bien élevés, ben voilà, c'est ça.
Oui, ah oui.
Et ils te le rendent bien aujourd'hui, alhamdoulilah. Ah oui. Et à la maison, tu vis avec qui à la maison?
Seule.
Toute seule?
Oui, ah.
Et quelqu'un t'aide? Est-ce que tu as de l'aide?
Oui, oui, oui.
Ah bon, oui, c'est bien. Oui. Et ils ont des enfants? Tu as des petits-enfants?
Oui. Oh. La petite, un garçon et le grand.
C'est magnifique.
Ouais.
Ce qui nous raccroche à la vie, c'est ça. Les petits enfants, c'est fou, c'est une merveille.
Moi j'ai élevé tout seul, mais là nous le ramène bien.
Ça c'est beau.
Ouais,
ça c'est beau. Et ta maladie, tu dis que tu as cette maladie. On sait ce que c'est, hein, la maladie de Parkinson. C'est une maladie neurologique. C'est une maladie quand même qui est un peu lourde, hein, fatigante, oui. En même temps. Et en même temps très handicapante. Et donc, elle est arrivée quand?
En 2004.
En 2004. C'était suite à un événement?
Non, c'est... j'étais au travail, j'avais le bras qui se paralysait, et je n'ai pas compris pourquoi. Et j'ai fait une IRM devant un diagnostic que j'avais cette maladie.
D'accord.
Je ne sais pas.
Et qu'est-ce qu'il dit, le médecin, le neurologue? Parce que quand on entend neurologue, etc., on se dit, bon, c'est des choses, c'est dans la tête que ça se passe, et que des fois, il y a des maladies, on a tous des maladies en nous, et des fois, ces maladies, c'est des maladies dormantes, ben oui, comme le cancer, comme tout. Et des fois, ben, chez certains, ça se réveille. Alors, je ne sais pas, enfin, moi, j'ose imaginer, parce que, bon, la vie, il y a beaucoup de stress dans la vie. J'imagine que ça peut venir aussi du stress aussi, tu vois.
Tu
es une femme qui a beaucoup stressé, qui est angoissée.
Oui.
Tu as eu des événements difficiles peut-être.
Très difficile.
Ouais. Toute seule, oui. Toute seule depuis longtemps. Ils avaient quel âge quand ils...
Le grand, il avait 5 ans.
5 ans. Et donc c'était suite à un divorce ou...
Oui, j'ai divorcé.
Tu as divorcé. C'était douloureux, ce divorce?
Oui, parce que j'ai tout donné pour lui, mais je ne lui ai rien donné en retour.
Tu n'as pas accepté ce divorce?
Non, il fallait que je le divorce.
Comment?
Il fallait que je le fasse.
Il fallait que tu le fasses, oui.
Ouais, il fallait que je le fasse.
Oui, tu n'avais pas le choix.
Non, c'est
Et pendant ton mariage, ça a été compliqué aussi?
Oui, c'est trop dur.
Ouais. Et ta famille?
Moi, mes parents, ils sont décédés.
La ilaha illallah. Et t'as des frères et sœurs?
Je travaille, hein. Et ma mère, elle
est partie. Oui. Et des frères et sœurs, tu as, sinon?
Oui, j'ai un frère qui est parti il y a une langue, un frère qui est parti il y a une langue.
Tu as des frères et sœurs, pardon, j'ai pas entendu.
J'ai 5 filles, 2 garçons.
D'accord. Tu t'entends bien avec eux?
On est 7 sœurs.
Combien? 7 sœurs?
7 enfants.
Combien?
7 enfants.
7 enfants, vous êtes?
Oui.
Ah oui, c'est une grande belle, c'est une belle famille, dis donc.
Oui, oui.
Et vous entendez bien, ça va, vous rencontrez, vous, hein?
Des débats.
Des hauts et des bas, comme tout le monde, mais bon, c'est pas. Il y a toujours une sœur ou deux avec laquelle on s'entend plus, des fois, hein? On s'entend mieux.
Ouais.
Parce que ça peut te soutenir en même temps, et puis pas être seul, quoi, hein? Parce que, est-ce que dans la journée, parce que, bon, tous les jours, on voit pas sa famille, mais est-ce qu'il y a des jours où on te rend visite?
Oui, oui.
Voilà, où tu vas dans la famille. Et tu arrives à te déplacer
Avec des béquilles.
Avec des béquilles.
Oui, je crois, quand je n'arrive pas, je ne peux pas.
Ouais, c'est douloureux.
Je suis contente, je suis pour la vie de ça, là.
Comment?
C'est la rééducation. Le kiné.
Pour
le psychologue aussi.
Oui, ouais, c'est ça. Kiné, psychologue, tout ça. Ouais. Et oui. Et donc, tu vis avec cette maladie. Tu vis avec.
Oui, je...
Elle est là. Elle est là, mais c'est bien parce que tu relativises. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très juste et très encourageant pour toutes les personnes qui sont dans la même souffrance. Tu as dit, il y a pire. Et c'est vrai qu'il y a toujours pire que soi.
Ah oui.
C'est, voilà, c'est ça.
Il y a qui sont en il y a qui sont pas de bras, de jambes.
Oui.
Ils conduisent, ils sont fous.
Hein. Oui.
Moi, je suis en train de faire, alhamdoulilah.
Mais oui, mais tu vois, c'est bien.
Moi, je suis vive, je sors.
Et tu arrives à faire à manger, tu fais ta cuisine.
Oui, oui, oui. Hum? Si, demain, je baisse pas les bras.
Comment?
Je baisse pas les bras.
Tu baisses pas les bras, ça c'est bien, bravo. C'est bien, faut jamais baisser les bras. Tu sais, il y a une phrase, y a une expression, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce que tu dis que dans ta maladie, ça empire, mais peut-être que ça va stagner. Ça peut stagner aussi, à un moment donné.
Je tremble beaucoup.
Tu trembles?
Ouais.
Oui, 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 c'est ça, la maladie.
Parce que si je viens dans la main, je ne verrai pas bon pour me verre. Je prends juste sur la table.
Mm-hmm. Oui.
J'ai cassé beaucoup de vaisselle.
Tu as cassé beaucoup de vaisselle?
C'est pas grave.
Oh, prends de la vaisselle en plastique, c'est plus pratique. Allez, hop, poubelle.
C'est pas grave.
Ah, Louisa, poubelle, hein, poubelle. Comme ça, on ne fait pas la vaisselle. Oh, je déteste faire la vaisselle, moi. Heureusement qu'on a dit à la vaisselle maintenant. Maintenant, si elle se casse la vaisselle, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que toi, tu restes intact.
Hein?
La vaisselle, aujourd'hui, ça vaut pas cher. Comment? Tu es maniaque en plus?
Oh. Ah, ouais, ouais.
Ah oui. Ah, dis donc.
Ah, oui, je suis maniaque.
T'es très maniaque, ouais.
Mais
t'aimes bien quand c'est clean, clean, clean.
Oui, oui.
Ah ouais. C'est compliqué quand on est, quand on a une maladie pareille, hein, où on n'a pas toujours, comment dire, toutes ses forces, hein, pour faire les choses comme avant, et d'être maniaque. Je pense que ça, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui te fait souffrir le plus, parce que tu ne peux plus faire les choses comme tout, comme tu aimes les faire, parce que tu es quelqu'un qui aime que ce soit vraiment nickel, quoi. Hein, c'est ça.
Je
suis malade. Eh
oui.
Mais il faut plus. Essaye de relativiser aussi là-dessus en disant, bon, bah, écoute, hein, ménage, je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain, hein, puis si je le fais pas demain, je le ferai après-demain.
Non, mais moi.
T'arrives pas, toi, hein. T'arrives pas.
Je me protège tous les jours.
Je le
fais tous les jours.
Tous les jours? Ah ouais. Ouh là 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 là.
Une
ah oui, il faut que vraiment que ce soit pas une poussière, quoi.
Non, mais c'est une
Ah, c'est incroyable. Hein. Ça, c'est une. Je sais pas, c'est en soi. Il y a des gens, hein, dans l'éducation aussi, peut-être, et puis dans un état d'esprit. Ben, tu vois, moi, je suis pas si maniaque que ça.
Moi, je voulais pas en parler, mais je sais pas.
Comment?
Je sais pas, mais je voulais pas en parler de cette maladie. C'est parti.
Oui, mais bon, c'est bien de parler aussi, d'en parler. C'est bien. C'est bien d'en parler parce que ça encourage aussi d'autres personnes qui baissent les bras. Toi, tu as dit, je ne baisse pas les bras et ça, c'est formidable. Et on a à l'écoute, certainement, des personnes qui écoutent et qui ont la même maladie. Ben oui, c'est pas une maladie, t'es pas unique à l'avoir. Donc, et qui t'entendent parler et ça leur donne du courage, tu vois, de t'entendre dire... Il y a pire, et puis voilà, je continue à faire mon ménage parce que je suis maniaque, et que, voilà, enfin, tu vois, c'est important, parce que tu envoies de bonnes informations à ton cerveau, en disant, non, tu ne mourras pas, non, c'est pas la maladie ne m'atteindra pas. Elle est là, certes, c'est vrai, je la vois, elle est visible, mais je suis plus forte que ça. Plus forte qu'elle. C'est voilà, ça qui est important.
Ouais, je fais du sport.
Pardon?
Je fais du vélo trois fois par semaine.
Tu fais du sport?
Oui, je fais du vélo.
Ah, du vélo? Ah, c'est bien ça. Du vélo à la maison ou?
Dans une salle de sport.
Oui. Un vélo qui bouge pas, quoi.
Oui, je...
Ah, t'es comme moi, toi. Ah, t'es comme moi. Moi, je sais pas faire du vélo.
La piscine.
Ah, la piscine, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est formidable, la piscine. La piscine, donc, l'eau, c'est formidable. Ah oui.
Pour
beaucoup de choses d'ailleurs.
Aussi. On se rencontre.
Ah voilà, au moins tu rencontres des gens. C'est voilà. Génial. On arrive presque à la fin, ma chérie. Louisa, parce que j'aimerais prendre Fernando une minute. Je t'embrasse très fort, Louisa. Promets-moi de non mais reviens très vite, hein. D'accord.
Merci Vanessa, merci.
Je t'embrasse fort, ma Louisa.
Merci, très fort.
Plein de bonnes choses. Gros bisous, merci. Ma chérie. Gros bisous. Rabbi Djibshfa, Inch'Allah. Allez, on prend Fernando vite fait. Fernando.
Oui, bonsoir Vanessa.
Oui, bonsoir Fernando. Comment vas-tu?
Bah, j'en parle assez parce que je pensais pas que ça prendrait mon appel. Bah, je remercie d'avoir pris mon appel, malheureusement, en fin d'émission. Mais et voilà, mais en fait, au début d'émission.
Ah,
voilà,
mais il y en a d'autres, malheureusement, qui vont pas pouvoir passer. Toi, t'es passé. Je voulais pas te laisser.
Voilà, donc, passer. Merci. Donc, en début d'émission, tu parlais de la mort, etc. Et voilà, et j'aurais voulu un peu parler de mes parents. Voilà, donc, bon, voilà, parce que c'est le sujet du oui. début de ton émission.
Hein, oui, de la mort subite, hein, tu sais, la mort accidentelle. C'était ça, hein, parce que le sujet de la mort, on l'a fait un milliard de fois. Sur la mort, vraiment, la mort qui te foudroie, surprenante. C'est-à-dire que on t'appelle, on te dit, un proche a eu un accident, ou a eu un suicide, enfin un traumatisme, quoi, comme les attentats, tout ça. Pas la mort classique, maladie, etc. Ça, on passera tous par ça.
D'accord. Ben en fait, il est vrai que je sais pas si tu te souviens, mais l'autre fois je t'avais dit que malheureusement la seule justice qu'il y a dans cette vie c'est la mort, parce que qu'on soit riche ou pauvre, ben voilà, ça concerne tout le monde.
C'est
mais
vrai,
malheureusement, ouais. il est vrai que surtout la très grande injustice de la mort, c'est surtout quand il y a des personnes qui, c'est pas des enfants qui meurent. Pourquoi? Ben parce que ça, c'est une injustice, parce que normalement, quand un bébé naît, ou quand un enfant, ou même un jeune homme ou une jeune femme vient à peine de vivre, et qui n'a pas vécu assez longuement, ben normalement, c'est injuste qu'ils meurent, eux. Parce que normalement, dans la logique des choses, ben, c'est une personne d'âge qui a du vécu, qui est âgée, ben, on va dire que, entre guillemets, c'est normal qu'à un moment donné, il va mourir, parce que c'est la règle de la nature, de mourir, on ne peut pas échapper, la vieillesse, mourir de vieillesse, c'est un truc logique et normal. Mais quand un bébé ou un enfant, ou un très jeune homme ou une très jeune femme meurt, ben, ça, c'est injuste, on ne peut pas l'accepter parce que ce n'est pas dans la logique des choses.
C'est vrai qu'on a du mal à accepter. Non, mais ça, je comprends, hein, ça, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Hein. Oui, c'est pas dans la logique des choses de perdre son enfant. Alors que perdre un parent, c'est dans la logique, même si on n'accepte pas. C'est vrai ce que tu dis, mais on ne connaît pas le pourquoi du comment, Fernando. Le problème, il est là, on ne connaît pas les mystères de la vie. Parce que la mort, c'est la vie en même temps.
Et
tu sais qu'on part dans une autre dimension.
Bah oui, je t'écoute, hein, Vanessa. Mais le 5 février, ça, voilà, ça fera déjà un an que mon père était décédé.
Paix à son âme, qu'il repose en paix. Oui.
Bah, merci beaucoup, Vanessa. Mais après, tu connais pas toute mon histoire qui s'est passée, voilà, avec mon frère, ma soeur. Tu ignores tout et tu sais, ma vie est un vrai malheur. Voilà, je ne suis pas fait pour être heureux dans ma vie. C'est mon destin, c'est comme ça.
Voilà. On en parlera, Fernando. Faudrait que tu rappelles, on en parle, mais ton destin, tu sais, tu peux le faire aussi. Et puis, n'attends rien des autres. Parce que des fois, dans sa famille, il peut arriver que sa famille, c'est ses propres ennemis. Ça arrive, malheureusement. Hein. Toi, tu es une belle personne, reste comme tu es. Et puis, la famille, on peut la choisir. Il y a des amis, parfois. Fernando, je t'embrasse, reviens en tout cas. Et terminé pour ce soir, Giovanni, on se dit à demain.
On se dit à demain, merci à toi, belle nuit.
Merci à toi aussi, elle est belle et douce nuit, chers amis. Faites de beaux rêves, et puis on a parlé un peu de la mort, tout ça, à toutes les personnes qui sont souffrantes en ce moment. Je vous souhaite vraiment un prompt rétablissement, de tout cœur avec vous, et surtout de tout cœur avec notre Louisa, qui vient nous appeler, qui est souffrante. Louisa, de tout cœur avec toi, Inch'Allah. Voilà, terminé, je vous donne rendez-vous demain, et continuez à écouter les programmes de Beurre FM. Là, tout de suite, une rediff avec Philippe Robichon dans AVS et ses invités. Demain, je vous donne rendez-vous à 11h pour vos petites annonces, d'accord? Allez, à demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 22h à minuit et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.